Bon bah bonsoir à tous. On va commencer cette séance sur le pouvoir des nombres. Comme on est en nombre relativement réduit, alors je ne sais pas si c'est le sujet, si c'est le temps ou d'autres raisons, mais on feindra de ne pas se poser la question. Ce que je vous propose, c'est au fur et à mesure qu'on abordera différents thèmes, c'est de ne pas hésiter éventuellement à vous manifester. On pourra engager le débat un petit peu tout au long, quitte à conserver quand même une bonne partie après pour débattre de sujets qu'on n'aurait pas traités. Mais disons, on peut être un peu plus informel que d'habitude. Hein, quand on est 50 ou 100, c'est un petit peu plus lourd. Là, on a la possibilité de faire ça en famille, donc on va certainement pas s'en priver. Donc n'hésitez pas, à chaque fois que vous avez envie de vous manifester, et le cas échéant, je vous dirais, bon, reporte ça à la fin, parce qu'il faut quand même aussi pouvoir traiter un petit peu du sujet, sachant que c'est un sujet qui va être à géométrie très variable. Je sais où on commence, je ne sais pas où on finit. Donc, entre les deux, on verra. Je vous expliquerai au fur et à mesure comment on va essayer de fonctionner. Alors, on a un sujet qui s'appelle le pouvoir des nombres. Ce sujet, ce titre, on le doit à Jean, hein, de ce point de vue. Donc, j'ai essayé de l'interpréter à ma manière. Je ne sais pas si ça correspondra à votre interprétation, mais je vais essayer de vous expliquer sous quel angle je l'ai, je dirais, un petit peu prévu. Alors, ici, je suis le représentant d'une association qui s'appelle Pénombre. Je vais vous en dire quelques mots pour que vous compreniez la façon dont on va aborder la suite des questions sur les nombres. Pénombre, c'est une association en 1901 qui a été créée, il y a une quinzaine d'années, par un tout petit groupe de personnes. Il devait être 5 ou 6 à l'origine. Et c'était des chercheurs, des criminologues, qui s'était aperçu que tous les chiffres qui concernaient la délinquance, les problèmes, les aspects pénitentiaires et autres étaient extrêmement mal cernés et qui ont décidé de se regrouper en association pour réfléchir à ces questions. Et donc, leur objet, c'était de traiter de la statistique, donc d'où le nombre, dans le domaine pénitentiaire, et donc Pénombre, qui a donné quelque chose comme acronyme dont la signification progressivement a disparu. Parce qu'au début, ils se sont bien occupé précisément de la pénitentiaire. Alors c'était des chercheurs du CNRS, c'était des magistrats, c'était des criminologues, une journaliste, enfin quelques personnes comme ça. Puis progressivement, disons que les sujets ont commencé à se multiplier et l'objet de l'association s'est enrichi au fur et à mesure qu'il y avait de nouveaux membres. Et aujourd'hui, vous avez ici le titre, La vie publique des nombres. En fait, c'est une association dont les membres réfléchissent à la place du nombre dans le débat public. Et pour vous donner un exemple, lorsqu'on a traité en mini-congrès, je vous en parlerai tout à l'heure, du problème du nombre lors des dernières élections présidentielles, des précédentes élections, pardon, celle de 2000, enfin d'avant Sarkozy, hein, donc je ne sais plus, 2002, on avait été absolument atterré de voir que les programmes Chirac, Jospin et autres étaient à peu près dénués de tout élément quantitatif sur le chiffrage des programmes. Et on s'était dit, il faudra qu'on retravaille là-dessus, et ça fait partie d'une soirée qu'on avait organisée. Donc, en fait, une association qui réfléchit avec ses membres sur ces questions-là, ses membres, ce sont des gens en grande partie du secteur public. On a des statisticiens de l'INSEE, on a des démographes de l'INED, on a des professeurs de mathématiques, des magistrats, un homme politique, on en a un quand même qui est inscrit. J'ai découvert qu'on était ensemble au lycée, on ne s'est jamais causé, mais il était candidat à la présidentielle. C'est Bertrand Renouvin qui était le candidat royaliste. On a des journalistes, on a quelques gens du privé. Donc une association qui est vraiment faite de personnalités très, très différentes et qui ont tous un souci, c'est de s'intéresser aux éléments quantitatifs, statistiques du monde qui les entoure. Par contre, ce sont des gens qui, tout en étant sérieux, parce que quand vous voyez des gens qui sont administrateurs de l'INSEE et autres, ce sont des gens plutôt sérieux, et en fait, ils ne se prennent pas au sérieux et nos réunions sont plutôt, je dirais, animées, bon enfant, et notre principe, c'est qu'on peut parler de tout à condition de pouvoir en rire à un moment donné. Donc j'essaierai au fur et à mesure aussi de ne pas traiter du nombre de façon trop sérieuse, mais de vous donner un certain nombre d'éléments, au moins pour sourire et puis pour voir d'autres aspects. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Jean qu'on puisse avoir un vidéoprojecteur, parce que il existe, enfin, j'ai un certain nombre de documents qui permettent d'illustrer nos propos avec des éléments que vous avez à la télévision, dans les journaux, enfin des éléments qui nous entourent tous les jours. Et à Pénombre, on aime bien effectivement travailler avec des éléments très factuels et que l'on reprend dans différents documents. Je vous en donnerai tout à l'heure. Hein, nous avons les trois dernières lettres qui vous montreront comment on fonctionne. La lettre 47, 48 et 49. La 49 ne s'appelant d'ailleurs pas la lettre 49, mais s'appelant 7 au carré. Et c'est une lettre qu'on a traitée au carré pour montrer ceci. Et du coup, la 50 qui est en préparation s'appelle la lettre ronde parce qu'elle va traiter des chiffres ronds. Et les chiffres ronds, vous en avez des quantités en ce moment. C'est le plan Paulson aux États-Unis de soutien à l'économie qui se compte en centaines de milliards de dollars. C'est le plan d'aide aux institutions financières en France. C'est les 100 milliards qu'on attend des capitaux islamistes qui pourraient s'investir dans la finance française si on devient, acceptable en termes d'éthique islamique bancaire, etc., etc. Donc on travaille effectivement sur les nombres ronds, ces nombres ronds étant des nombres qui se terminent avec un zéro, donc 0, 10, 100, 1 million, 1 milliard, etc. Et on arrive à faire tout de même, je crois que ce sera 16 pages sur le sujet, avec des données extrêmement, extrêmement variées, et des articles qui, certains, sont extrêmement sérieux, et puis d'autres avec des titres de type « Prends l'oseille et tire-toi », qui montre bien ce que ça peut vouloir dire. Donc vous en aurez un certain nombre d'exemplaires qui vous permettront d'apprécier ce type de travaux que nous menons. Alors nous avons ces lettres, et puis d'autre part, nous organisons des réunions que nous appelons des nocturnes, qui se passent donc le soir à partir de 7 heures et qui se terminent comme les vôtres, hein, tard. 11 heures, minuit, 2 heures, tout est variable dans des lieux prestigieux. C'est à l'École normale supérieure, par exemple, où on réquisitionne l'amphithéâtre pour traiter d'un sujet donné. Et on a traité aussi bien de l'assurance maladie, des retraites, de la loi, de ce qu'on appelle la LOLF, c'est-à-dire la nouvelle façon de travailler le budget. Et puis on a inventé une formule qu'on appelle les vespérales, parce qu'elle dure un petit peu moins longtemps. On ne connaît pas bien la différence avec la nocturne, juste peut-être qu'elle dure une demi-heure de moins, mais la dernière qu'on a traitée était sur l'obésité, et avec notamment tous les problèmes d'IMC, c'est-à-dire tous les problèmes statistiques qu'on peut avoir autour, et où on a démonté complètement, le lobby des laboratoires pharmaceutiques qui travaillent sur ce secteur de l'obésité et qui diffusent une large partie de l'information sans qu'on s'en aperçoive. Donc on est dans des éléments un peu crypto qu'on va reprendre aussi un petit peu aujourd'hui. Voilà donc pour situer cette association. Moi, j'en fais partie depuis quelques années. J'en suis vice-président. Ça signifie en fait que c'est une fonction qui est parfaitement honorifique. Mais comme j'étais depuis quelques temps délocalisé à Cône-sur-Loire, on a jugé que pour venir jusqu'ici, c'était plus simple que de déplacer nos camarades parisiens. Et donc, on m'a transmis le bébé pour venir traiter ce sujet du pouvoir des nombres. Donc moi-même, je suis statisticien d'origine, je suis universitaire. Mais pas mathématicien, hein. Je suis un vrai littéraire qui a eu un premier bac à l'époque dans lequel les mathématiques avaient le coefficient 1 et j'ai eu une note de 1 sur un total de 100, c'est-à-dire que les maths pour moi ont représenté 1%. Bon, après ça, j'ai mal tourné, j'ai continué, etc. Mais disons que je suis un homme du privé pour l'essentiel, hein. J'ai été conseiller d'entreprise et donc travaillant sur le chiffre, et d'autre part j'ai travaillé dans l'industrie, chez le leader de l'industrie ophtalmique, 30 ans d'un côté, 10 ans de l'autre, ça donne à peu près les volumes, et parallèlement pour me dédouaner du fait d'être dans le marché marchand, je suis professeur à l'université Paris Diderot où j'enseigne le diagnostic stratégique. Voilà, ça se permet de situer le débat. Mais le chiffre m'intéresse beaucoup et je vais essayer de vous le montrer. Alors on va essayer de rentrer dans notre sujet, et pour dire, pour moi les nombres sont partout, hein. C'est-à-dire qu'on est cerné par les nombres, on peut tenter une sortie à l'occasion, mais disons que les chiffres ou les nombres, pour moi c'est la même chose, chiffres ou nombres, j'ai jamais fait jamais fait la différence. C'est tout autour de nous, et même quand on ne s'en aperçoit pas. Et j'ai cherché à l'illustrer d'ores et déjà avec un premier élément, qui est d'une partie de la région, alors peut-être un petit peu moins ici, chez nous, on est en plein dedans, puisque de nos fenêtres, on voit la Loire. Hein. Donc les crues de la Loire, ça nous a interpellés, et c'est pas vieux, hein, puisque ça, il y a un mois seulement. Et vous allez voir qu'avec quelques éléments simplement, le chiffre revient d'un seul coup dans le système et se fait poser un bon nombre de questions. Alors c'est juste une illustration, après ça on va rentrer dans d'autres éléments. Donc les crues de la Loire, hein, là je vous ai mis un exemple, c'est pour dire que les crues de la Loire, c'est pas seulement l'hiver, ça c'était le 20 juin. Déjà le 20 juin, on était avec la flotte qui arrivait au ras des routes. Mais depuis, ça a quand même beaucoup changé. Et on est un peu inquiet dans la région, puisque là, vous avez l'échelle des crues sur une des maisons qui est en bord de Loire. Vous voyez que ça peut monter assez haut, puisqu'en 1866 ou quelque chose comme ça, il devait y en avoir 2,50 m de plus que le niveau de la route. Et donc, ces temps-ci, bah, on a monté un petit peu hein, aussi, on a eu quelques pieds dans l'eau, et on a suivi ça attentivement, et je dirais que, par simple curiosité, j'ai suivi. Et les journaux aussi. Et les journaux, ça c'est le journal de Cône, le régional de Cône, ça s'appelle. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, on attend jeudi 3,90 m. Bon, 3,90 m, on considère là-bas que la crue commence à quelque chose comme 3,50 m, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont 40 cm de flotte au rez-de-chaussée, hein, c'est pas négligeable. À quelques kilomètres de là, c'est Gien, et pareil, là on annonçait 4,40 m, tranquillement. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est la courbe, heure par heure. Vous voyez que le pic, le point culminant à Cône-sur-Loire, c'est 3,63 m. On nous annonçait la veille 3,90 m. Alors, quand vous savez que la flotte vient d'ailleurs, elle vient de l'amont hein, pour l'essentiel, qu'on peut mesurer à Nevers, qu'on peut mesurer à Decize, qu'on peut mesurer à Digoin, on se dit que le modèle de prévision... Il est quelque part douteux, parce que si on n'est pas fichu de prévoir le niveau de la Loire, alors que le système est relativement stable, hein, il n'y a pas de fonte des neiges, il n'y a pas d'éléments comme ça, c'est un petit peu inquiétant. Alors la mesure, elle est simple, hein, vous avez des échelles qui sont dans la Loire, qui sont reliées automatiquement à un réseau de surveillance, et donc bah, il y a des statistiques qui sont publiées tous les jours, heure par heure, et qui permettent de voir. Alors là, je vous en ai mis un extrait, et c'est là que j'ai commencé, parce que j'ai été voir les hauteurs, parce que je me disais, ça monte ou ça descend. Et puis d'un seul coup, on s'aperçoit de quoi? Aux alentours du 19 novembre, et je vous assure que de notre fenêtre, on voyait la Loire avec de l'eau. Hein. Là, on est dans des hauteurs négatives. C'est-à-dire que d'un seul coup, les statistiques officielles nous disent quoi? On est à moins 1 cm, moins 2 cm, moins 4 cm. C'est un peu interpellant quand même. Et d'un seul coup, on se dit, s'ils n'arrivent pas à prévoir quelque chose, c'est pas normal puisqu'ils ont un thermomètre qui manifestement ne fonctionne pas bien. Et comme ils donnent une adresse e-mail dans leur document, j'ai envoyé un mail pour dire, expliquez-moi parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. 15 jours après, il n'y a pas de réponse, hein, rien. Donc j'ai commencé à me dire, là, il y a vraiment un loup. Et vous savez, là, on est tous avec la théorie du complot. On se dit, il y a quelque chose qui ne colle pas et tout. Et c'est il y a 2 jours, hein, le mail est arrivé, et on a une réponse. Et la réponse, elle vaut son pesant de cacahuètes, hein, c'est la copie du mail. Hein. C'est l'échelle de la station est située à droite, 50 mètres environ de l'aval du pont, ça c'est celle que vous avez vue. Les valeurs indiquées sont des valeurs relatives par rapport au zéro de l'échelle fixé une fois pour toutes au 19e siècle, et qui correspondait au niveau des plus bas eaux de l'époque. Donc on est... 1850, hein, j'ai vérifié 1853 depuis. Alors après ça, il vous raconte des tas de choses, il vous explique surtout que si on a des valeurs négatives, c'est tout simplement qu'on a tellement creusé pour prendre du gravier dans la Loire que le niveau n'est plus le même, et donc c'est normal qu'on ait des valeurs négatives puisque le point de référence date d'il y a 150 ou 160 ans, et puis dont acte, c'est comme ça. Après ça, on peut penser tout ce qu'on veut, mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on vous dit le niveau de la Loire, c'est 3,50 m ou c'est 4,20 m ou autre? C'est par rapport à un truc au 19e siècle. Enfin, et les différences qu'il peut y avoir entre Cône et Gien, ce n'est pas les mêmes puisqu'on n'a pas piqué les, les mêmes cailloux au même moment et autres. Ce qui veut dire qu'on traîne des statistiques heure par heure maintenant, depuis des années. Mais en fait, on ne parle pas de la même chose. Et donc, ce n'est pas tout à fait anormal que le modèle de prévision soit un petit peu bancal. Donc, c'est pour dire que simplement sur un phénomène tout bête, hein, comme l'eau qui monte, dès qu'on rentre dans le chiffre, on se pose des tas de questions et puis on s'aperçoit que le mouvement n'est pas aussi pur, aussi simple que cela. Et ça, c'est un phénomène relativement banal. Et vous allez voir au fur et à mesure que tous les jours, vous êtes assailli par des chiffres, par des données. Un journal télévisé, le journal que vous lisez, une affiche dans le métro, enfin pas dans le métro ici, mais on pourrait dire, si vous étiez à Paris. Et sans y prendre garde, on est exposé à un ensemble de pollutions chiffrées majeures, dont on ne se rend pas compte, mais qui, je dirais insidieusement, laissent des traces. Et c'est ça qu'on va essayer de regarder. Et c'est bien l'objet de notre association, hein, de regarder la place du chiffre dans le débat public, ou l'absence de chiffres dans le débat public. Et c'est ce qu'on va essayer donc de reprendre. Donc j'ai pris un certain nombre de thèmes qui me paraissent significatifs. Bon, il y en a que j'ai mis de côté parce que sinon on peut y passer toute une semaine, hein, sans aucun problème. Ce que je vous propose, c'est s'il y a des thèmes que vous trouvez non pertinents ou peu intéressants et tout, bah, faut le dire, hein, on coupera puis on passera, on en trouvera d'autres. Je ne vais pas vous en donner tout de suite une liste complète, mais le dernier thème quand même que je voudrais aborder avec vous, sans présenter grand-chose, mais pour qu'on puisse engager davantage le débat, parce que je sais que c'est quelque chose qui titille souvent, c'est tout ce qui tourne autour des sondages d'opinion, mais sur lequel on pourra en dire certainement beaucoup. Mais en attendant, on va regarder d'autres éléments chiffrés qui reviennent pratiquement tous les jours et sur lesquels, simplement, je voudrais attirer votre attention pour dire, mais c'est fabuleux de voir qu'au-delà du terme, au-delà du mot, du commentaire, c'est tout ce que ça cache, tout ce que ça recèle, et en fait, tout l'arrière-plan qu'il peut y avoir et auquel, éventuellement, on est exposé en restant inconscient. Alors, c'est pouvoir d'achat, revenus, ceux de pauvreté, j'ai mis, etc. C'est des mots qu'on entend tous les jours, hein. On a un président qui est le président du pouvoir d'achat. On vous parle du salaire médian, on vous parle du seuil de pauvreté, mais en fait, ça veut dire quoi tout ça? Alors là, j'ai repris, c'est pour ne pas oublier, hein, simplement parce que ce n'est pas des notions qui sont très claires, même pour moi. Le mot pouvoir d'achat, en fait, quand j'ai fait mes études d'économie, pouvoir d'achat, c'est un mot qu'on n'employait absolument pas. Pouvoir d'achat, ça n'existait pas, on parlait d'augmentation du pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on ne prenait pas le pouvoir d'achat en tant que valeur, on regardait simplement le pouvoir d'achat dans son évolution. On disait le pouvoir d'achat augmentait de 3%, mais on n'a jamais dit ce que c'était que le pouvoir d'achat. En fait, le pouvoir d'achat, c'est ce qu'on peut se payer avec son revenu. C'est ça la définition, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, dire que par rapport à l'année dernière, on peut se payer 2% de plus ou 3% de plus, ça commence à avoir une signification. Et aujourd'hui, on ne parle plus tout à fait de ça, puisque, en fait, on ne parle plus de progression de pouvoir d'achat, on parle plutôt de baisse de pouvoir d'achat. Et en même temps, vous avez chaque fois des chiffres de l'INSEE qui ressortent, comme quoi le pouvoir d'achat a augmenté d'1,5 ou de 2% l'année dernière. Et vous avez les gens, c'est ce que je vous marque là, 68% des Français estiment que leur pouvoir d'achat a baissé depuis un an. Donc s'il y a 68% des gens qui disent que leur pouvoir d'achat a baissé, alors que les chiffres montrent que le pouvoir d'achat a augmenté, on doit se poser quand même des questions et se dire que ce n'est pas normal. Alors, quand on réfléchit à tout ça, ben, y a des tas de bonnes raisons, mais c'est tout simplement qu'on ne parle pas des mêmes choses. Et vous avez vu qu'à un moment donné, Leclerc, donc des magasins Leclerc, a engagé un institut qui s'appelle le BIP pour faire un indicateur du pouvoir d'achat qui vient démentir en quelque sorte les chiffres de l'INSEE à ce stade-là. Et pourquoi ? Ben, tout simplement parce que dans une famille, on s'aperçoit que le pouvoir d'achat ne se calcule pas par rapport à un revenu global, mais qui se rapporte à un revenu qui reste une fois qu'on a payé un certain nombre de choses, qu'on a remboursé le crédit du logement, qu'on a eu tous les prélèvements pour les téléphones portables. Alors quand vous avez trois gosses qui ont maintenant leur téléphone portable avec leur abonnement, plus le père, plus la mère, ça fait 5 abonnements, ça fait 100 ou 150 euros qui disparaissent. C'est bien dans le pouvoir d'achat, quelque part, puisqu'on le finance, hein, ce point-là. Mais ce n'est pas du pouvoir disponible. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a l'abonnement, ça part tout seul, ça vient en déduction. Puis c'est l'abonnement Internet, et puis c'est l'assurance auto, etc. Et en fait, à partir du moment où on regarde ce qui reste, effectivement, c'est très curieux, mais on a un pouvoir d'achat qui est en baisse. Oui, mais on parle de quoi? Et l'augmentation, on la calcule sur le total par rapport au total du revenu comparé à l'augmentation des prix. On regarde uniquement la partie disponible. Parce que si vous commencez à mettre tout en prélèvement automatique, vous mettez l'EDF, vous mettez le gaz, vous mettez Internet, vous mettez le téléphone. Après tout, vous pouvez prendre une carte passe à Carrefour qui prélève automatiquement et ainsi de suite. Votre revenu disponible, il est de zéro, votre pouvoir d'achat est nul. Et puis vous pouvez vivre parfaitement bien. Donc quelque part, on a vraiment ce problème et qui explique que... Et du coup, ça veut dire quoi être président du pouvoir d'achat? Là, on a vraiment une interrogation et c'est pour montrer simplement que comme on n'a pas défini correctement le concept... Bah finalement, on a toutes les interprétations qui peuvent tourner autour, puisqu'on ne sait pas très bien de quoi on parle. Et on ne parle jamais tout à fait de la même chose. De la même façon, on parle du revenu. J'ai employé le terme, alors revenu, salaire, bon, peu importe. Revenu, j'ai mis juste 3-4 chiffres. Il y a 10% des Français, hommes et femmes confondus, qui ont un emploi, qui parmi ceux qui ont un emploi à plein temps, parce que vous savez qu'il y a 20% des emplois qui sont à temps partiel hein, en France, donc 10% des gens qui ont un emploi à plein temps, gagnaient moins de 1040 euros net par mois, c'était en 2005. Alors pourquoi 2005? C'est parce que les chiffres de 2006, ils sont encore des chiffres provisoires, et donc faut du temps hein, pour produire les chiffres et les vérifier. Donc on remonte à 2005. 50% gagnaient alors moins de 1528 euros net par mois. Alors net, ça signifie une fois qu'on a eu les déductions de sécurité sociale, enfin toute la prévoyance et autres. C'est pas après impôt, c'est avant impôt. Donc 1528, et c'est ça qu'on appelle le salaire médian, dont on parle tout le temps, c'est celui où il y a autant de gens qui gagnent plus que de gens qui gagnent moins. Et puis après ça, on définit le seuil de pauvreté, c'est tout simplement, statistiquement, ils ont décidé que c'était 60% du salaire médian. Donc, s'il est de 1528, bah, c'est en gros, c'est 900 euros par mois. Donc, si tu gagnes 890 euros, tu es pauvre. C'est comme ça qu'on le traduit. Ça signifie que si on vit dans une société très riche, hein, imaginez qu'en France, tous les gens des Émirats et autres viennent se faire naturaliser et vivent dans le même lieu, bah, le seuil de pauvreté va être très haut. Hein. Il n'y aura que des pauvres en dehors d'eux. Inversement, si on ramène tout vers le bas, on sera tous pauvres, mais on ne le saura pas, puisque le seuil de pauvreté ne sera pas atteint. Donc ce mot de seuil de pauvreté qu'on emploie, il est terrible, parce qu'en fait, il est purement statistique, il n'a aucune autre signification. Alors évidemment, vous allez me dire, avec 900 euros, est-ce qu'une famille peut vivre, etc., surtout à Paris, avec des loyers? Ben, peut-être, mais c'est le chiffre qui est en référence permanente et que vous entendez à la télévision, à droite, à gauche, etc. Et puis en même temps, vous avez quand même 50% des gens qui gagnent moins de ce salaire médian et c'est ça qui nous interpelle. Donc pour dire que toutes ces définitions, on ne les revoit jamais très bien revenir. Hein, mais par contre, on vous dit qu'il y a tant de pauvres en France ou, à voir. Hein. Donc c'est ça le seuil de pauvreté. Il y a 7 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et alors à partir de là, je voulais vous interpeller sur un point, c'est les comparaisons internationales, parce qu'on est où maintenant? On est dans un phénomène de mondialisation, de globalisation et autres. Et donc on s'interroge toujours pour savoir s'ils sont plus heureux ou moins heureux que nous à l'étranger. Et puis il y a quand même des professions où on se pose des questions pour savoir comment ça se passe ailleurs. Et là je vous cite une étude pour la Direction générale de l'aviation civile. On a travaillé pendant presque 2 ans sur le sujet. C'est l'aviation civile en France qui s'interrogeait pour savoir si les pilotes et les personnels navigants commerciaux, c'est-à-dire les hôtesses et les stewards, étaient mieux ou moins bien payés en France qu'à l'étranger. C'est une fois qu'ils avaient payé leurs impôts et leurs charges sociales, est-ce qu'ils avaient plus d'argent ou moins d'argent que leurs petits camarades? Est-ce qu'ils coûtaient plus cher ou moins cher à leurs employeurs? Et finalement, est-ce qu'il vaut mieux être hôtesse sur Air France ou est-ce qu'il vaut mieux être hôtesse sur une compagnie low cost en Slovénie ou en Estonie? Et quand on regarde ça, on s'aperçoit que c'est extraordinairement compliqué de faire ces comparaisons. Or, en permanence, on vous parle de pouvoir d'achat comparé ou de richesse comparée suivant les pays. Pour vous citer quelque chose, hein, c'est le pays le plus riche par tête en Europe actuellement, et pourtant ils sont en pleine crise, c'est l'Irlande. Hein? Bon, pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez des revenus financiers qui sont absolument considérables dans ce pays. Les institutions financières y fonctionnent énormément. Et quand on regarde l'ensemble de la valeur produite et qu'on divise par le nombre de têtes, effectivement, c'est eux qui sont les plus riches. Ça ne signifie pas que l'Irlandais moyen soit vraiment plus riche que le Français moyen, si tant est qu'on puisse définir le Français moyen, mais je n'ai pas prévu d'en parler ce soir. Alors, je voulais vous montrer un tout petit peu la complexité. Et là, on avait travaillé en se disant, on va prendre simplement trois catégories de pilotes, hein, pour avoir des cas qui soient rigoureusement les mêmes dans les différents pays. Alors, ça allait du jeune pilote qui était célibataire à celui qui était avec 25 ans d'ancienneté, etc. Et puis, on était recherché toutes les rémunérations brutes, c'est-à-dire le salaire qui est en haut de la feuille de paye, compagnie par compagnie, donc vous voyez Air France, Britair, Corsair, toutes les compagnies françaises, et puis des compagnies étrangères, aussi bien des grosses comme British Airways ou des beaucoup plus petites comme Sky Europe, par exemple. Donc là, vous avez un certain nombre de chiffres, pas la peine de tous les regarder, mais juste pour information, un pilote confirmé sur Air France, c'est 207 000 euros par an, chiffre 2005, alors que chez Germanwings, par exemple, qui est une low-cost allemande, c'est 126 000. Donc on se dit, il y a une sacrée différence. Hein. Alors la différence, elle est réelle, mais est-ce qu'elle est aussi réelle que ça quand on va continuer ? Alors là, vous avez la comparaison, donc les... Vous voyez que ce soit British Airways ou Air France, c'est pratiquement les mêmes montants. Mais quand vous voyez les Portugais, on est à 94 800. C'est quand même nettement inférieur. On regarde leur salaire, on regarde leurs charges et on regarde le taux de charge qu'il peut y avoir. Et là, vous avez des tas de comparaisons. Et d'un seul coup, vous apercevez par exemple que le taux de charge, il est intéressant. Vous êtes en France à 49%. En Allemagne, ici, vous êtes à moins de 20%. Donc, quelque part, ça signifie comme bien quelque chose, c'est que les prélèvements ne sont pas du tout au même niveau. Et donc, ça devient un petit peu interpellant, parce que ça veut dire quoi d'avoir une grosse rémunération si vous en piquez des quantités énormes en termes de prélèvements obligatoires. Mais en même temps, personne n'est capable de dire, au final, si c'est plus intéressant ou moins intéressant, parce que si vous êtes en Angleterre, on vous prélève presque rien. Mais on ne vous donne pas grand-chose non plus. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous financer votre mutuelle vous-même, si vous ne voulez pas faire la queue chez le praticien du coin, et ainsi de suite. Mais en valeur faciale, votre revenu disponible, il n'est pas tout à fait du même niveau. Et donc là, on a un graphique qui montre bien ces différences. Et là, on est en Europe uniquement. Hein. On n'est pas allé dans des pays très exotiques. On n'est pas allé voir ce qui se passait au Sri Lanka ou dans des coins comme ça. Donc, on peut regarder ce que les gens ont comme différence entre le net et le brut. Hein. C'est ce que vous regardez sur votre feuille de paye. En gros, en France, on a 23% de prélèvement. Qu'est-ce que ça donne pour les autres ? Alors, quand on dit 23%, je ne sais pas si vous avez entendu le débat, justement, qui est très chiffré actuellement à l'Assemblée nationale. C'est que lorsque vous augmentez quelqu'un de 10, en gros, il coûte à l'entreprise... ou à l'employeur, il coûte 15 ou 16. Et au final, une fois qu'il a payé ses charges et ses impôts, il récupère un peu moins de 6. Donc, quelque part, vous vous rendez compte tout de suite que l'augmentation qu'on peut donner à quelqu'un, elle coûte très cher au global, et au final, elle pèse modérément. Donc ici, vous voyez que les taux de prélèvement, en Allemagne, on est à 54%. Impôts compris entre le net et le brut, en France, on est à 63%. On n'est pas tout à fait dans les mêmes eaux. Donc on se dit, avec ça, on va être tranquille et tout. Ben non, justement. C'est que derrière, il y a le coût de la vie dans les différents pays. Alors celui-là, on n'en a pas parlé jusqu'ici. Et c'est pour ça qu'on en parle très peu habituellement. Et pourtant, on parle de délocalisation tous les jours parce que le coût de la main-d'œuvre est moins cher, etc. Mais le coût de la main-d'œuvre est moins cher, ça veut dire quoi pour la personne qui est à l'autre bout ? Ici, les coefficients que vous voyez disent que quand en France, on a 100 de revenus, c'est à peu près équivalent à être en Allemagne et avoir seulement 95 de revenus. Mais par contre, ce serait 290 en Tunisie. C'est-à-dire, compte tenu de la structure des coûts de l'alimentation, du logement, de l'automobile, etc., on n'est pas tout à fait de la même façon. Et donc, quand on regarde le confort de vie des uns et des autres, et qu'on ramène tout à ce qui se passerait si on était en France, bah vous apercevez que votre pilote, par exemple débutant, en France, il est payé 80 300, donc on va dire que ça représente un indice, une base de 100. Et bien si vous allez, par exemple, dans un pays comme c'est la Slovaquie, où il y a Sky Europe, ils sont payés bien moins cher, mais le coût de la vie n'est pas le même et tout, et bien on s'aperçoit là que, en fait, au lieu de 80 300, ils sont à 79 900 en équivalent. Autrement dit, le pilote slovaque d'une compagnie low cost, ben, il vit dans son pays aussi bien que le commandant débutant chez Air France. Donc là, ça devient beaucoup plus interpellant dans les comparaisons internationales parce que le coût du bonhomme, votre billet, hein, vous le payez, le kérosène, il est au même prix, le billet que vous allez acheter, vous allez le payer au même titre qu'un Slovaque et ainsi de suite, mais vous avez des distorsions qui sont considérables. Et en fait, qu'on ne voit jamais apparaître parce que précisément, personne ne se pose la question de la cherté relative dans les différents pays. Et donc, ça veut dire que pratiquement toutes les comparaisons internationales que l'on voit en termes de revenus, en termes de dépenses et autres, sont peu signifiantes, mais ce n'est pas grave, hein, parce que ça peut faire éventuellement une manchette ou ça peut faire un titre à la télévision. C'est un chiffre qui passe, qui est rassurant, qui est tranquille, mais qui n'a pas non plus nécessairement de fondement. Donc, vous voyez, je mentionne des éléments comme cela pour dire, finalement, on est entouré de chiffres, mais à chaque fois, il faut aller au-delà. Alors, c'est un peu compliqué, c'est un peu astreignant, et puis on n'a pas nécessairement les éléments, parce que tout le monde ne vit pas avec ces côtés-là, mais ça signifie quelque part qu'il faut avoir une attitude extraordinairement critique pour se dire, finalement, quel est le crédit que j'apporte aux chiffres qui m'est transmis, et est-ce que c'est de bonne aloi, ou est-ce que finalement, on peut se poser d'autres questions. Alors ça, c'était juste pour terminer, hein, c'était, vous voyez le tableau, on avait calculé le handicap relatif de la France par rapport aux autres pays. Vous voyez que le handicap, il est positif par rapport à tous les autres pays. Ça signifie simplement que le coût du travail en France, une fois qu'on rajoute toutes les charges sociales et tout le reste, il est plus coûteux, même quand on tient compte des parités de pouvoir d'achat, c'est-à-dire de la différence des niveaux de vie, il est plus coûteux en France, de toute façon, pour ces professions-là, qu'il n'est dans les autres pays qu'on a étudiés. Donc là, c'était l'objectif de cette étude à l'origine, c'était de vérifier si la baisse de compétitivité du transport aérien en France était due aux coûts salariaux ou non. Mais le résultat au final, c'était de dire, bah oui, il y a quelque chose, c'est que ça coûte plus cher d'exploiter une compagnie aérienne en France que ça ne coûte en Slovaquie, en Allemagne, en Angleterre, etc. Troisième sujet, on en parle souvent, espérance de vie, mortalité, etc. Alors ça, c'est très interpellant parce que l'espérance de vie dont on parle toujours, c'est l'espérance de vie à la naissance. Ça, on ne le dit pas beaucoup, mais on vous dit à la télévision, l'espérance de vie des Français a augmenté. Elle a augmenté de 3 mois depuis l'an dernier. En gros, c'est ça. Hein. Tous les ans, ça augmente de 3 mois. Ça veut dire qu'en fait, en 2005, on était à 77,4 ans, hein, ça veut dire 77 ans et 5 mois pour les hommes, et 84,4 pour les femmes. Donc, si on prend à peu près un trimestre par an, aujourd'hui, on va se rajouter une demi-année, ça veut dire qu'on est à 78 et 85. En moyenne, hein. C'est-à-dire que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous allez vivre jusqu'à 78 ans ou jusqu'à 85? Pas du tout. C'est mon petit-fils qui est né il y a 6 mois, son espérance de vie, effectivement, est de 85 ans. Mais la mienne, elle n'a rien à voir avec ça. Espérance de vie à la naissance. Mon espérance de vie à la naissance, je devrais être mort, hein, ou presque. Donc, il y a quelque chose qui a changé. Donc, allons un peu plus loin sur ces chiffres-là. Et, en fait, est-ce que vous entendez souvent parler de votre réelle espérance de vie compte tenu de votre âge aujourd'hui? Ben ça, on ne vous en parle pas, mais pourtant, les chiffres existent. Alors ça, vous pouvez regarder, ça peut vous donner des bonnes idées pour la suite. Si vous avez 50 ans, par exemple, si vous êtes un homme, ben vous avez en gros 27 ans d'espérance de vie à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire que votre espérance de vie totale, c'est 77 ans. Et si vous êtes une femme, c'est 34 ans, ça veut dire que vous avez des chances d'aller jusqu'à 84 ans. Puis vous voyez que si vous avez 90 ans, bah, en moyenne, vous pouvez espérer 3 ans ou 4 ans, mais vous n'êtes pas encore centenaire. Hein. Il va falloir attendre quelques années pour gagner le trimestre tous les années pour y arriver. Et ce chiffre-là, on le voit pratiquement jamais apparaître. Alors moi, je trouve que c'est amusant de parler toujours de l'espérance de vie à la naissance, qui est quand même très hypothétique, alors que vous allez avoir, par exemple, 50 ans, vous dites « j'ai quand même fait un sacré bout », donc j'ai déjà pris une partie de mon stock, ce serait normal que j'ai la prévision complète. Mais celle-là, on ne vous la donne pas. Pourquoi ? J'en sais rien. Alors que votre compagnie d'assurance, elle le sait très bien, hein, quand vous prenez l'assurance vie, ils le connaissent, ça. Ce n'est pas l'espérance à la naissance hein, qu'ils ont. Ils savent très bien qu'à 50 ans, il vous reste tant en moyenne. Quand vous achetez un appartement en viager, c'est ça le tableau. Hein. Ce n'est pas l'espérance de vie à la naissance. Donc c'est pour dire que là encore, on est sur un concept qui ressort régulièrement. En gros, c'est tous les 3 mois qu'on le ressort dans les journaux télévisés, mais toujours sous un angle et pas sous l'autre. Alors, puisqu'on parle d'espérance de vie, il y a la mortalité. Et la mortalité, ben, je vous simplement pour mentionner deux points qui m'interpellent beaucoup, c'est que régulièrement, on vous parle du nombre de morts par le tabac, puis on vous parle du nombre de morts par l'alcool. Alors après ça, on peut raffiner. Il y a le nombre de morts sur la route dues à l'alcool, etc. Tout ça, c'est bien. Mais ce qui est bien, c'est surtout que c'est 66 000 décès pour le tabac et c'est 45 000 pour l'alcool. Alors ça, c'est le chiffre qui est partout. Et quand je dis qu'il est partout, ça veut dire qu'il y a plus de 15 ans que je vois ce même chiffre tous les ans. C'est-à-dire que ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, mais en même temps, vous apprenez quoi ? C'est qu'il y a moins de fumeurs qu'avant. Et puis, la consommation de tabac est en baisse. Alors, c'est marrant, parce que ça peut être en baisse, il y a toujours autant de morts. Et puis, l'alcool, c'est pareil. Hein, il suffit de regarder les statistiques. On n'est même plus le premier pays consommateur de vin. On a été doublé. Hein, ça veut dire que ça a bien baissé. Mais il y a toujours autant de morts. Donc, quelque part, il y a un doute. Et si vous allez un tout petit peu à la pêche, bah, vous voyez que le chiffre de 45 000, en fait, oui, c'est vrai qu'il est marqué ce chiffre. Mais en fait, la prévision, l'estimation, c'est entre 25 000 et 60 000. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est le chiffre moyen entre les deux. Mais l'estimation, elle est extrêmement vague, parce qu'en général, d'ailleurs, celui qui est dans cette catégorie-là, il a d'autres trucs qui peuvent expliquer aussi sa mortalité. Il y a des facteurs de morbidité autres. Donc, on n'est pas capable de trancher. Mais ce qui compte, c'est de ce chiffre qui reste hein, dans l'inconscient, les 66 000, les 45 000, même si c'est des chiffres qui n'ont pas de valeur en eux-mêmes. Mais ceux-là, essayez de les détruire. Hein. C'est mektoub, c'est écrit. Hein, et c'est quasiment définitif. Donc, c'est amusant parce que les démographes en rigolent régulièrement. Mais quand ils en rigolent et qu'il y a un journaliste dans la salle, le journaliste hoche la tête et puis dans 3 mois, il va écrire les 66 000 morts de la même façon. De la même façon, hein, je finis sur la mortalité. Vous avez peut-être vu qu'au mois de septembre, on a eu le chiffre des morts sur la route est en diminution constante depuis un certain temps. Alors on nous a donné des tas d'explications. J'ai même un extrait de journal télévisé, s'il faut le rechercher, on le retrouvera, qui explique que c'est dû au radar. Parce que là où il y a des radars, il y a 85% d'accidents en moins. Et donc c'est fabuleux. Mais vous avez peut-être vu que dans la région parisienne, avec la hausse du cours du cuivre, il y a des braves gens qui ont piqué tous les câbles électriques. Quand vous habitez à Paris, vous ne pouvez pas imaginer la jungle. Hein. Vous voulez prendre votre RER le matin, le RER n'arrive pas, c'est qu'on a piqué les câbles des caténaires. Hein. Non, ce n'est pas une blague hein, que je raconte, vécu. Et sur l'autoroute qui va à Pontoise, Sarcelles et compagnie, il y a plus de 10 km de câbles, enfin de voies, où il n'y a plus de câbles électriques, tout a été piqué. Et le préfet, constatant qu'il y avait moins d'accidents et moins de morts sur la zone, a décidé qu'on ne remplacerait pas les câbles, parce que vu que quand il n'y a pas de lumière, les gens roulent moins vite, il y a moins d'accidents, et donc c'est une bonne mesure de sécurité publique. Donc, d'un seul coup, vous dites, oui, mais alors l'explication, c'est quoi? C'est la lumière, c'est les radars automatiques, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui colle pas bien là-dessus. Bon, moyennant quoi, il y a quand même une baisse tendancielle. Hein, vous savez que par rapport au temps de Pompidou et autres, le nombre de morts sur la route a quand même diminué considérablement. Mais là, septembre, plus 15% par rapport à l'année d'avant. Ouh. Alors là, il y a eu des journaux qui ont titré, on a expliqué le relâchement des mœurs, les gens qui sont inattentifs, la drogue au volant, enfin, on a tout mis. Le mois d'après... Moins 16 par rapport à l'année d'avant. Ouais, mais c'est que septembre, ça n'a pas été un mois très beau non plus. Il y a eu de la flotte, on n'a pas regardé tout ça. Et ça veut dire que sur un chiffre isolé, éventuellement, on va vous faire un papier, on va en causer, on va prendre des mesures. Et puis, le chiffre, il n'a aucune valeur puisque c'est un chiffre instantané. Et puisqu'on parlait du tabac, est-ce que vous vous souvenez du mois de mars ? Je vous rappelle qu'on ne fume plus dans les lieux publics depuis le 31 décembre, enfin depuis le 1er janvier. Grosso modo, au mois de mars, communication, alors là, prenez Internet, recherchez, tapez simplement Dotzenberg, qui est le nom du médecin qui a fait la communication, et vous allez avoir mais profusion là-dessus. Dans les services d'urgence, incroyable, hein, en deux mois de temps, en gros, il y a 30% de baisse des gens qui sont admis pour des problèmes, comment on appelle ça, cardio-pulmonaires, extrêmement liés, apparemment, donc, au tabac. Janvier, février, mais fabuleux, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on n'avait jamais vu ça. Alors qu'il suffisait d'aller voir un petit peu les taux qu'il pouvait y avoir chez les moines bénédictins et dans des populations qui ne fument pas, et je pense qu'on aurait découvert des trucs. Mais là, c'était ça. Et on nous dit, et ça va se confirmer dans les mois prochains, on continue à les suivre et on communiquera là-dessus. Cherchez sur Internet la suite des chiffres. Rien. Il n'y a pas eu de trace. Il vient d'y avoir un congrès d'ethnologie, pas une trace de l'étude. Pendant les deux premiers mois, c'est vrai qu'il y a eu une grosse baisse, et après ça, on ne sait plus. Bon, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'on a pris deux chiffres. Alors peut-être qu'il a fait meilleur, peut-être qu'il a fait plus chaud, peut-être que, je ne sais pas, il y a eu sans doute des circonstances un peu particulières. Il y a peut-être une baisse hein, aussi, c'est pas... Mais enfin, quand on a interdit de fumer dans les bureaux, on n'a rien vu dans les services d'urgence. Donc le tabagisme passif, il avait baissé aussi. Mais là, on n'a pas de traces, on n'a pas de chiffres. Bon, on a le droit d'avoir le doute. Hein. Je vous parlais de la théorie du complot tout à l'heure. On nous a raconté des trucs. C'est vrai, c'est pas vrai. Moi, je ne peux pas vous dire, j'ai pas réussi à les avoir, ces chiffres. Mais c'est pour dire que sur les problèmes de morbidité, de mortalité, etc., il y a un obscurantisme qui est absolument fabuleux. Et puis, pour le plaisir, on ne va quand même pas rater celle-là. Vous vous souvenez de 2003 ? Alors, ce que vous avez en rouge, c'était la mortalité annoncée pendant la canicule par les organismes gouvernementaux. Et puis, en gris, les grandes barres, c'est le nombre de morts jour par jour qui ont été constatés ensuite quand on a pris les registres d'état civil. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez les différents chiffres, il y a eu 15 000 morts en tout. Le maximum qu'on ait trouvé dans les stats officiels, c'était un peu plus de 10 000 et sur la fin du phénomène. Ça veut dire que ces chiffres de mortalité, quelque part, ils sont suivis, mais avec beaucoup d'inattention, finalement, curieusement, à partir du moment où c'est des chiffres instantanés et pas des valeurs comme les 66 000 du tabac ou comme le nombre de gens morts du sida dans le monde, et ainsi de suite. Mais des phénomènes comme cela passent complètement inaperçus. Je pense que vous vous souvenez tous quand même de ce mois d'août un peu calamiteux. Si vous le suivez au jour le jour, les communiqués de presse et l'ensemble, c'est hallucinant, alors qu'il y avait... Un organisme qui était parfait en termes de prévision, c'était les pompes funèbres générales qui ont annoncé régulièrement la progression des décès et qu'on n'a pas cru. Hein. Donc, c'est pour dire là encore que ces chiffres dans le débat public, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, sont parfois interpellants et hallucinants. Donc, c'est quelques éléments hein, que j'essaye de mettre devant les yeux, mais pour dire... On en a des chiffres, hein, mais à profusion, mais quels chiffres avons-nous ? Qu'est-ce qui signifie ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc, puisqu'on parle de chiffres, Je vous propose un thème qui est ignorance, erreur, manipulation. Alors, on manipule les chiffres, mais manipuler les chiffres, ça ne veut pas dire que c'est délictueux. Hein, quand vous faites une addition, vous manipulez des chiffres. Puis, il y a une autre façon de manipuler des chiffres, c'est de leur faire dire des choses pour lesquelles ils n'ont rien demandé. Puis, entre les deux, y a de l'erreur. Parce que c'est fabuleux le nombre d'erreurs qu'on peut commettre. Et là, je vais vous donner un certain nombre d'exemples auxquels vous avez été confrontés si vous regardez la télévision ou si vous lisez le journal, et qui passent tous absolument inaperçus. On a eu l'un des exemples qu'on avait enregistré à Pénombre il y a fort longtemps. C'est passé 28 fois sur France Info dans la journée. Un truc qui était complètement erroné. C'était une erreur, mais vraiment une erreur sordide. Un môme qui se présente au bac avec ça, il n'a pas son bac. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de rectificatif et autres. Mais 28 fois dans la journée, en boucle, les chiffres sont sortis et ont été assénés comme une vérité. Donc c'est là que l'erreur est grave, en ce sens qu'elle n'est pas consciente et elle n'est même pas voulue. Une erreur voulue, ça a quand même des mérites. Et vous verrez, la dernière en date, c'est pas une erreur très grave, mais c'est peut-être une manipulation. C'est dans le journal télévisé, il y a 4 décembre, on verra tout à l'heure le truc. On peut discuter. Moi, j'ai la moitié de mes camarades qui disent que c'était voulu et que c'est une manipulation. Certains qui savent pas, et on est quelques-uns à être persuadés qu'en fait l'explication est très simple et que c'est tout simplement parce que c'est des gens incompétents qui ont fait le graphique. Mais on va le regarder, vous verrez que c'est particulièrement amusant. Alors, pourquoi j'ai traité erreur, manipulation et autres? C'est parce que globalement, quand même, la statistique a une mauvaise image. C'est historique parce que les statistiques ont été inventées en gros pour lever l'impôt. Ça date du temps des Assyriens et autres. On commençait à recenser la richesse des gens pour les imposer. Donc il n'est pas normal que la réputation soit pas riche. C'est pas une science. Très sincèrement, ça n'a rien d'une science. C'est une technique. Donc ça n'a pas le mérite de la mathématique, de la physique ou autre. Et puis, c'est un gros alibi pour les politiques et pour les médias. Et d'ailleurs, regardez un débat télévisé où un ministre va dire « Je vais vous donner deux chiffres » et que lui dit-on « Non, pas de chiffres, ça ralentit le débat, etc. » Alors, je vous ai recité quelques petits mots parce que je les aime bien. Le premier, c'est il y a trois catégories de mensonges. Les mensonges, les fiefs et mensonges et les statistiques. Et ça, c'est attribué à Disraeli, qui était donc le grand britannique comme ça, lequel aurait dit « les statistiques sont la forme scientifique du mensonge ». L'art de mentir avec précision, vous voyez qu'on n'est quand même pas déçu. Et j'aime beaucoup Churchill qui disait « je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées ». Alors, il y en a d'autres. C'est la première des sciences inexactes, c'était les Goncourt. Vous avez Coluche, les statistiques, c'est comme le bikini, ça donne des idées, mais ça cache l'essentiel. Enfin, vous voyez qu'il y a beaucoup de négatifs dans tout ça. Et j'aime bien la dernière. Si la géométrie est l'art de raisonner juste avec des figures fausses, la statistique est l'art de raisonner faux avec des chiffres justes. On ne va pas les prendre comme ceci. Je vais vous donner quelques exemples. Voilà, par exemple, des erreurs de calcul. Alors, c'est vraiment anecdotique, mais vous connaissez peut-être cette émission qui s'appelle « C'est dans l'air », qui passe sur la 5 tous les fins d'après-midi, en soirée et au petit matin, et où il y a en général des gens qui sont plutôt bons en termes d'expertise. Et moi, dans quoi on entend des trucs qui font réagir absolument personne, qui sont pas graves. De toute façon, il n'y a rien de fondamental, simplement que... On peut se poser. J'ai plus de souris.
Ça commence bien.
décembre, on est... Pour l'instant, si on veut être générationnel, mais si on faisait des calculs, la probabilité pour les 700 millions de touristes internationaux d'avoir un problème de ce type est de l'ordre de 0,01%. Ce qui veut dire que c'est effectivement beaucoup plus faible que les accidents de la route, puisque sur les accidents de la route en France, la probabilité pour un automobiliste d'avoir un accident mortel est de 0,5%. Ce qui veut dire que c'est 100 fois plus d'abord.
Donc je vous cite en rouge à la fin, 0,5% égale 100 fois plus important que 0,01%. C'est pas grave, mais il n'y a personne pour rectifier, il n'y a personne pour rien. Et dès comme ça, mais je vous assure, faut pas croire qu'on les cherche beaucoup, hein, on les prend comme ça, il y en a tous les jours. Et c'est pas grave, mais en même temps, ça signifie que là, on vous envoie quand même un message. Il y a une petite musique, les paroles, vous n'y faites pas attention, mais il reste des traces à la longue. Et donc là, ça reste vrai que c'est moins dangereux que la route, mais il y a des cas où on va avoir des choses qui sont complètement discordantes. Alors celui-là, j'aime beaucoup. Vous connaissez peut-être Alliance. Alliance, c'est le syndicat des policiers. Enfin, un des syndicats de policiers. Et ils ont une très bonne idée avant les dernières élections présidentielles. Ils ont décidé de lancer une enquête sur l'image de la police en France. Et ils ont décidé de la faire eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est des policiers qui ont posé des questionnaires à des gens comme vous et moi. Alors du genre, ça rappelle, on raconte ça, mais je pense que c'est vrai, c'était du temps où les renseignements généraux faisaient des sondages. Alors en principe, quand on fait une enquête par sondage, on commence toujours par dire qu'on a interviewé tant de personnes, etc. Et les renseignements généraux auraient écrit au démarrage « on a interpellé tant de personnes ». Bon, voilà, c'est à peu près la même chose. Et donc, début 2007, ils font une grande enquête. Ils appellent ça une enquête vérité. Et ils interrogent 10 270 personnes. Et donc, dans les journaux, Le Monde, Libération, etc., on voit des comptes rendus. Et simplement, il y a eu quelques réflexions pour dire c'est quand même, faut toujours se méfier un petit peu quand c'est des gens qui font une profession de lobby, hein, qui font une enquête. Mais enfin, après tout, puis il suffit d'aller sur leur site, hein, et puis de regarder l'enquête. Et puis, ben, ils sont bien, ils sont transparents, ils ont publié les chiffres. Je vous en ai mis un exemple, ça se verra peut-être pas très bien, mais je vais vous aider. Donc, en fait, c'était pas le 10 000 qu'ils avaient raconté. Ah non, pardon. Excusez-moi, c'est juste la province, là. Il y a Paris et province. Donc il y a 6908 sur la province. 6908 personnes qui ont répondu aux questions. Question intéressante. Avez-vous fait appel au service de police au cours des 12 derniers mois? 32%, oui. Ça, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais peu importe. Question suivante. Si oui... Autrement dit, si vous avez fait appel, etc., comment avez-vous trouvé le contact ou l'accueil? Et là, vous voyez, quand vous faites l'addition, j'ai du mal à les relire. 522 plus 220, ça fait 1800, 2300, 2400, 2500, 2600. Bon, en gros, il y a 20% de plus de répondants qu'il y a de personnes qui ont eu un contact avec la police. Bon, non, mais je trouve qu'on aurait eu un quotidien du soir qui aurait sorti le communiqué de presse d'Alliance et en disant « Est-ce que vous nous prenez pour des cons ?» purement et simplement, la messe était dite, on était tranquille. Moyennant quoi, tout le monde a publié le communiqué de presse bien proprement pour dire que la police avait une très bonne image dans la population française, alors que quand on voit l'instrument de mesure, il vaut que dalle. Hein. Je dis, il y a des mots, mais on les refuse au bac. Hein. Là, on est à peu près au même niveau. Donc ça... C'est grave, parce que ça signifie que là, est-ce qu'on est en désinformation? Oui. Est-ce qu'on est en manipulation? Je crois pas. Je crois que ça, c'est tout simplement des gens dont c'est pas le métier et qui se prennent les pieds dans le tapis. Hein. C'est un truc mal foutu. Un policier, c'est pas fait pour faire des questionnaires d'enquête d'opinion. C'est pas un gendarme qui va faire des statistiques de dépouillement et ainsi de suite. Donc, faut que chacun reste un petit peu dans son métier. Mais il faudra aussi que les médias critiquent un petit peu ces choses-là et aillent un petit peu au-delà. Je n'ai pas passé des heures pour aller chercher ces chiffres. C'est tout simplement, on dit, ça doit être marrant quand même de voir un petit peu comment est foutu leur sondage. Les graphiques, vous en avez tous les jours à la télévision maintenant. C'est devenu la grande mode, l'infographie. Et des erreurs, ben, y en a autant que de graphiques. Ah, celui-là, c'est un vrai, qu'on a vu dans un journal. Bourgogne, on est bien dans la région, salaire comparé. Alors vous avez un camembert, comme on dit. Le salaire d'un PDG comparé à celui d'un ouvrier, il est 5 fois plus gros, etc. Oui, mais manque de peau, c'est pas un graphique comme ça qu'on fait, parce que ça veut dire que sur 100% des salaires, les PDG pèsent pratiquement un tiers. Bon, ils sont bien payés, mais enfin, ça fait pas tout à fait autant. Mauvais graphique, donc derrière, qu'est-ce qu'on signifie là? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est. Je vous dis, c'est les pieds dans le tapis, mais ça fait partie de ces petites choses courantes. Les problèmes d'échelle, celle du haut, c'est une échelle qui figurait, et puis si vous agrandissez un tout petit peu l'échelle, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait la même tête. Je vous assure que c'est les mêmes chiffres, c'est juste l'échelle qui change. Il n'y en a pas une qui soit juste et une qui soit fausse, hein. Simplement, ça ne donne pas tout à fait la même perception. Mais il suffirait d'augmenter encore un peu de raccourcir l'échelle pour avoir un truc qui soit parfaitement droit. Hein. Ce serait propre. Vous lissez tout avec ça. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose. On ne prouve rien avec ça. C'est ce que je vous ai mis ici avec, si on mesure, vous avez les inventaires en fin d'année, si vous mettez le stock année après année. Suivant l'échelle, vous voyez que d'un côté, on a un stock qui est parfaitement stable, et puis de l'autre, il fluctue. Hein. Mais c'est les mêmes chiffres. Alors, quand vous donnez ça à des gens dont c'est le métier de faire des stocks, de faire des inventaires et autres, et derrière de faire des stats, ça les interpelle un petit peu, parce que on ne dit pas « moi jamais ». Je vous assure que j'ai dû en faire des comme ça aussi. Il y a longtemps, mais c'est plus fort que tout. Il y a des cas où on ne voit pas, même avec l'expérience, on peut se planter. Et c'est pour ça que je dis on est en erreur, on n'est pas nécessairement en manipulation. Celui-là n'est pas intéressant. Je suis juste en train de me poser une question. Non, c'est ça. Vous avez peut-être vu cette publicité il y a un an ou un an et demi sur le téléphone Samsung. Donc là, on est avec du chiffre, on est avec du graphique, on est avec tout. Vous voyez qu'il y a un chiffre qui est 10,9. On ne dit pas ce que c'est. Et quand vous le voyez comme ça, est-ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire, 10,9? Alors, c'est la taille. C'est même des millimètres, je vais vous dire. Ben, c'est l'épaisseur. Et quand vous regardez le truc, si ça signifie que c'est l'épaisseur, faut de bons yeux, quoi. Enfin, vous en faut de bons parce que je suis devant. Bon, ben ça fait partie de ces choses. Alors bon, c'est une publicité, on va dire, c'est pas grave. Non, mais ça veut dire que là encore, on est avec un machin qui est mal construit. Alors derrière, on a les chiffres absurdes. Alors, les chiffres absurdes, je les aime bien parce que c'est fréquent. C'est des ordres de grandeur qui peuvent être invraisemblables. Et puis, il n'y a jamais de rectificatif, comme je vous disais. Alors, je vous donne deux exemples. Le premier, je n'ai pas retrouvé la bande-son, hein, c'est dommage, mais vous connaissez peut-être cette émission de Jean-Pierre Coff qui s'appelle « Ça se bouffe pas, ça se mange ». Et il y avait une émission qui était consacrée à l'œuf. Et donc, ils avaient fait venir des aviculteurs. Et il y avait une grosse discussion pour savoir si on n'avait pas tort d'élever les poules en batterie et si on ne devrait pas les élever en plein air. Et il y avait toute une discussion. Et à un moment donné, il y a eu l'argument absolument massu qui était de dire en France, il y a 60 millions de poules. Ça tombe bien, il y a une poule par Français. Mais le chiffre est à peu près juste. Hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et donc, 60 millions de poules pondeuses, si elles devaient disposer chacune de 4 mètres carrés, elles occuperaient la moitié du territoire métropolitain. Alors vous savez, 550 000 km², vous voyez 550 000, 225 000, 4 mètres, 60 000, 60 millions, tout ça, ça a l'air de coller. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai éclaté de rire en disant, j'avais mon fils qui était là, j'ai dit, dis donc, à Saint-Trope en été, moi, j'ai plus de 4 mètres carrés pour mettre ma serviette. Hein. Alors, faut pas déconner, dans le Larzac, c'est pas les poules qui vont prendre toute la place. Bon, en fait, l'explication, 60 millions de fois 4 mètres carrés, ça fait 240 millions de mètres carrés. L'explication est juste. Donc, je divise par 1000 pour passer au kilomètre carré, comme dirait l'autre, mais un kilomètre carré, c'est 1000 mètres par 1000, c'est-à-dire qu'il faut diviser par 1 million et non pas par 1000. Donc, il y a une erreur qui est modeste. Je vous assure qu'il n'y a personne qui a réagi dans le courant de l'émission, ni après et tout. Bon, n'empêche que quelque part, qu'est-ce qu'on a dit aux gens ? On leur a dit, si on fout vos poules en batterie pour pondre des œufs, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que sinon... Et je ne suis pas sûr que ce soit une manipulation, c'est peut-être une gigantesque connerie, simplement. Hein ? Mais quelque part, le message est passé. Donc ça fait partie de ces choses qui hérissent. Alors, je vais vous en montrer un autre dans les chiffres absurdes. Est-ce que vous souvenez peut-être de Deep Impact ? Alors, Deep Impact, c'est une sonde qui a été envoyée par la NASA qui devait heurter une comète à grande vitesse et on devait mesurer ou apprécier le trou que ça ferait dans la comète pour je ne sais quoi. Alors, je vous montre le reportage.
Le 12 janvier prochain, la sonde Deep Impact décollera de Floride. L'objectif de cette mission, aller étudier de près la composition d'une comète. Dominique Chebacalar.
Les scientifiques de la NASA s'apprêtent à percer les secrets de Temple One. Pour la première fois, une sonde spatiale percutera une comète. La sonde Deep Impact rencontrera l'astéroïde après un voyage de 6 mois. Le choc provoquera un cratère de près de 37 000 km et des débris bien précieux.
37 000 km pour une comète. Hein. La Terre, c'est 40 000 km. Donc, c'est-à-dire que ça fait un trou comme la Terre.
Oui, je dis ça. 40 000 km, c'est la Terre. Faire un trou de 40 000 km dans une comète, ça passe cette taille-là, mais peu importe, mais simplement se dire, personne n'a réagi. C'est passé à tous les journaux, hein, du matin jusqu'au soir. Et Dominique Chebacalar, c'est pas une mauvaise hein, non plus, c'est plutôt une bonne journaliste. Bon, n'empêche qu'elle a sorti un machin énorme comme ça, où on sait que c'est une absurdité. Moi, dans quoi derrière, on peut se poser la question. C'est quoi l'explication de l'erreur ? L'explication, vous l'avez là. On prend le site de la NASA, qui vous dit que c'était un truc de 350 kilos. Hein. Donc, vous voyez le trou que ça pouvait faire, hein, quand même, avec 350 kilos. Donc, ce relâcher frappera la partie éclairée du noyau de la comète à une vitesse de 10,2 km/s et formera un cratère de 25 mètres de profondeur et de 100 mètres de large. Vous voyez que ce n'était pas tout à fait pareil. Et l'explication, bah, c'est tout simplement que 10,2 km/s, quand on fait le calcul, c'est 37 000 km/h. En fait, ils ont confondu la taille du trou avec la vitesse de la sonde. Bon, non, mais c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est quand même inquiétant que ça passe comme ça. Alors, dans les chiffres incertains, hein, je vous donne quelques exemples, parce que c'est ceux qu'on... Franchement, on n'a pas besoin de les chercher, hein, il suffit d'allumer son poste.
Pour l'immense majorité, depuis à peu près une vingtaine d'années, les salaires dans la fonction publique ont été énormément revalorisés.
En 12 ans, le salaire moyen est ainsi passé de 18 000 à 24 300 euros par an pour la fonction publique. Les salaires du privé ont augmenté moins rapidement, de 16 000 à 21 300 euros, en raison notamment du coup de frein en contrepartie des 35.
En fait, on parle du salaire. Alors, les chiffres sont justes, hein, là. Ils sont justes, simplement, quand je dis, qu'est-ce que le salaire ? C'est le salaire horaire ? C'est le salaire mensuel ou c'est le salaire annuel ? Je cite Eva Joly, qui, quand elle était jeune juge, avait eu un chef d'entreprise à qui avait demandé son salaire. Il avait dit un chiffre, et donc elle était restée tranquille. Et c'est quelques mois après, en reprenant le dossier, qu'elle s'était aperçue que c'était le salaire mensuel qu'il lui avait donné. Donc, il fallait quand même multiplier par 12 pour avoir le bon chiffre. Est-ce que c'est un salaire brut ou est-ce que c'est un salaire net? Quand vous parlez du public et du privé, ça change tout. Parce que ce n'est pas les mêmes taux de cotisation quand vous êtes fonctionnaire ou dans une collectivité territoriale ou quand vous êtes chez Renault. C'est un salaire moyen, c'est un salaire médian. Vous voyez, toutes ces notions, il y en a 24 en tout pour définir le salaire. Alors, on vous donne un chiffre, on vous donne un graphique. On vous dit, les gens du public sont bien payés par rapport aux gens du privé. Ça, c'est un sacré message. Mais est-ce que c'est ça que ça signifie? Les gens du public hurlent en entendant le reportage, hein, bien évidemment. Alors celui-là, je vous mets pas d'exemple et autres, mais vous vous souvenez les chiffres du chômage en France. Je vous rappelle que l'INSEE a refusé de publier son indicateur il n'y a pas si longtemps parce que c'était un chiffre qui n'était pas certain. Ça signifie quand même qu'on était en train de raisonner sur des chiffres faux depuis fort longtemps avec les enquêtes emploi pour arriver au final à un très joli chiffre à l'époque de 9% tout rond là, qui était parfait, mais dont on sait aussi qu'il est hautement discutable puisqu'en fait, on peut avoir le nombre de chômeurs qu'on veut. Il faut bien travailler et la définition et l'acceptation ou les radiations pour les ajuster d'une certaine façon. Dans d'autres domaines, hein, je vous donne celui-là, vous avez tous vos paquets de petits beurres ou de yaourts et autres sur lesquels vous avez les calories. C'est juste pour dire que tout ça, c'est faux, parce que on compte tout avec 1 kilocalorie égale 4184 joules, ça c'est sûr. Mais en fait, on ne le compte pas tout à fait comme ça, c'est qu'on arrondit. C'est 4 kilocalories par gramme de protides, et non pas 4,184. Ça signifie que quand vous en avez 100 grammes, vous avez une variation significative et autre. Ça signifie qu'en fait, vos nombres de calories qu'on vous donne, ils sont de l'ordre de grandeur que l'on vous donne. Mais ce n'est pas du tout le chiffre exact. Alors qu'on vous dit c'est 373 calories pour 100 grammes ou c'est 522 calories. Donc on vous donne une précision illusoire avec un calcul qui a été faussement arrondi. Toujours dans ces éléments, là je vous donne les statistiques en l'an 2000 de la population irakienne. On vous dit par exemple c'était 64,7% d'Arabes, 5,6% d'Azerbaïdjanais, etc. 2000, hein, Irak. Quand vous voyez la situation du pays, pensez qu'on est capable de décomposer ça avec des décimales pareilles, je suis impressionné. Dans les problèmes d'échelle, vous avez vu ça dans la presse ces jours-ci, dans tous les journaux, hein, même ici. La comparaison du prix du gaz avec celui de l'électricité, avec, pour montrer que le gaz, c'est l'énergie la moins chère. Le graphique, si vous vous amusez à prolonger, comme ceci, et puis à mettre les parallèles pour avoir l'échelle, vous apercevez que le graphique est parfaitement faux, c'est-à-dire que l'échelle, elle a été faite pifométriquement parlant. Elle n'est pas très très fausse, mais ce n'est pas un graphique. C'est un machin d'illustration. Mais il est dans tous les journaux. C'est pas très grave, mais c'est pas juste. Alors c'est celui-là que j'affectionne beaucoup dans les problèmes d'échelle. Donc 4 décembre, journal de Pujadas. Alors voilà ce qui était dit, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le plan de relance et son contexte. Notez que dans le même temps, Jean-Claude Trichet a annoncé que la Banque Centrale Européenne diminue son principal taux d'intérêt de 3/4 point à 2,5%. C'est la troisième baisse en 3 mois et son ampleur est inédite depuis la création de l'euro, etc. etc. Et là-dessus, il y a un graphique qui sort. Donc graphique sur France 2 que vous avez là, tel quel. Il est passé sans problème. On était quelques-uns à tilter quand même en disant c'est marrant. D'abord, il n'y a pas l'échelle. Mais quand même, le 2,50 qu'on voit à droite, si on multiplie par 2, ça fait 5%. Et le 4,25, ça fait plus de 2 fois le 2,50, si vous regardez bien. Donc on a reconstitué le graphique. Le graphique de gauche, il y a deux façons de le reconstituer. Le premier, c'est en mettant une échelle qui commence à zéro. Vous voyez qu'il est une autre gueule. Ou bien on indique l'échelle en mettant ici qu'on démarre à 2. 2, 2, 5, etc. Mais là, on n'a pas mis l'information. Mais vous voyez la différence comme ceci. Alors, je vous disais, il y en a certains qui prétendent que c'est délibérément que ça a été fait dans le but d'accentuer la communication sur le sujet. En fait, ma perception personnelle, connaissant un tout petit peu le monde de la presse, c'est que celui qui fait l'article, le rédacteur, et celui qui fait l'illustration ne se causent pas en général, et que celui qui fait l'illustration n'a jamais appris la statistique, n'a jamais appris les graphiques. En fait, il fait de la cosmétique, et par conséquent, il a fait un joli truc, et puis c'est tout. Mais c'est pas très grave, mais c'est quand même pas bon. Et c'est quand même sur le service public, hein, en période de discussion de la réforme de l'audiovisuel. Des graphiques qui prouvent quoi ? Ça sort de challenge. Alors là, vous voyez tout de suite l'attaque, hein. Les cadras sont les premiers contribuables. Autrement dit, là, on regarde les prélèvements. Les taux de prélèvement aux différents âges, vous voyez que c'est aux alentours de 40 ans qu'on paye le plus. Et surtout, l'article dit très bien, là, il y en a quelques-uns qui devraient se méfier. C'est ceux qui sont là, qui sont les retraités et surtout les plus âgés, qui payent presque rien en termes de prélèvement par rapport aux autres. Bon, oui, comme je dis, ça prouve quoi ? Ça prouve quoi ? On sait très bien que déjà, on cotise plus pour la retraite quand on est retraité, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on veut prouver avec ça ? Donc là, on est dans le type de graphique. Là, que je trouve extrêmement pernicieux, même si ça n'a pas été volontaire, parce que ça met un petit peu d'anathème quelque part, sans qu'on ait l'ensemble des éléments, savoir ce qu'on a voulu prouver en particulier. Ou celui-ci, qui est dans le même journal, hein, sur l'évolution de l'obésité, vous voyez que c'est fabuleux. Vous avez deux courbes pour montrer comment... comparaison entre la France et donc l'étranger, mais c'est surtout la courbe du bas qui est intéressante, que j'ai grossi à droite. Vous voyez ce bond absolument fabuleux en 2007 du taux d'obésité en France. Qu'est-ce qu'ils bouffent comme McDo et qu'est-ce qu'ils boivent comme Coca ? Et puis, si vous regardez bien, ici, il y a marqué « source ». C'est pas la même source tout au long, mais surtout en 2007, c'est pas la même source que les autres années. Donc ça ne veut pas dire que le chiffre est faux, mais simplement ils ne sont pas comparables. Mais par contre, on n'a pas indiqué que ce n'était pas la même source, et on a mis une grosse pointe vers le haut. Hmm ? Mais manger, bouger, hein, on est bien dans le message ambiant. Mais ça veut dire qu'en permanence, on a ça. Alors maintenant, on va rentrer dans la désinformation. Et là, vous avez un exemple intéressant qui est sur la prostitution étudiante. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelques cas comme celui-là, mais celui-ci vaut vraiment son pesant de cacahuètes, parce qu'au même instant, c'est sorti dans tous les journaux français, c'est sorti dans Envoyé spécial sur la 2, et ça a été repris dans les journaux anglais comme The Observer, comme des journaux comme ça, The Independent. Et...
Le profil de ces femmes. Certaines profs en école de commerce ou en faculté de droit, si elles se prostituent dans des clubs privés, c'est semble-t-il pour financer leurs études. D'autres sont salariées, mais traversent une période financière difficile. Nous avons été à leur rencontre, elles ont accepté de témoigner. Et c'est une étude qui nous vient d'Angleterre, de la très sérieuse université de Kingston, qui nous permet de mesurer un peu plus sur l'ampleur de ce phénomène, notamment chez les étudiants. Là-bas, le chiffre de ces prostituées occasionnelles a doublé en 6 ans. Et il faut dire que les frais d'inscription à la faculté ont pratiquement triplé. Pas facile maintenant.
Bon, c'est éloquent. Il y avait un chiffre qui était donné, d'ailleurs, c'était 40 000. 40 000. L'estimation du nombre de prostituées en France par la police est inférieure à 50 000. C'est-à-dire qu'on a quand même des prostituées à haut QI, hein, manifestement, puisque c'est beaucoup d'études. Bon, en fait, l'origine de ceci, extrêmement intéressante, c'est un tract du syndicat étudiant Sud à Montpellier, qui a été diffusé et qui donne sa source dans un rapport qui a été remis au ministre de l'Éducation nationale. On est un certain nombre à aller chercher le rapport, à le lire. Il n'y a absolument aucune trace sur les problèmes, je dirais, de revenus qui obligent à se prostituer autre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une référence qui n'existe pas. Mais ça a été tellement bien diffusé, ce tract, vers les médias, c'est remonté, ça a explosé d'un seul coup. Et ce qui est marrant, c'est que le même phénomène s'est produit en Angleterre, il s'est produit aux États-Unis, il s'est produit dans des tas de pays et a été repris de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on s'aperçoit que là, on peut lancer un canard qui va avoir la vie durable. Mais ça passe quand même dans Envoyé spécial et ça fait un tiers de l'émission. Ça laisse quand même des traces. Alors, à Pénombre, on avait beaucoup travaillé aussi sur ce sujet. Vous avez entendu aussi qu'en France, vous l'avez peut-être entendu, qu'il y avait 70 000 mariages forcés et d'époque, ou 70 000 qui risquaient d'être des mariages forcés. Et en fait, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a retrouvé, notamment, il y a Philippe de Villiers qui avait repris le chiffre très violemment à la télévision. Ça avait été repris dans tous les médias. Et en fait, quand on avait fait notre calcul, on s'était aperçu qu'en France, on avait en tout et pour tout 70 000 filles étrangères de 15 à 18 ans en France et rien de plus. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris le nombre de filles d'origine étrangère de ces âges-là, et puis on a traduit qu'elles étaient exposées au mariage forcé et que par conséquent, il y avait 70 000 mariages forcés. Et il n'y a pas eu plus de critiques que ça. Alors là, c'est de la désinformation pure et simple. Hein, je veux dire que... On est dans l'absurdité totale. Et puis, il y a la manipulation. Alors celle-là, je pense que c'est l'une des plus belles pour moi. 9 février, il n'y a pas si longtemps, le titre « Martinon vers la sortie à Neuilly ». Martinon, c'était le conseiller de Sarkozy qui se présentait à Neuilly. Et donc... Je vous lis, un sondage confidentiel réalisé au milieu de la semaine prévoit la défaite de David Martinon, le porte-parole de l'Élysée, dans la course à la mairie de Neuilly. Le candidat UMP, 36 ans, avait, au début de la campagne, 20 points d'avance sur son adversaire de droite, le chef d'entreprise Jean-Christophe Fromentin, 44 ans. Cette nouvelle enquête d'opinion accorde au premier tour 45% d'intention de vote à Fromentin et 40% à Martinon, etc., etc. Le surlendemain, Martinon était mort. Hein, là, il est sorti, etc. En fait, maintenant, les grandes discussions, c'est de savoir qui a commandé le sondage, lequel aurait existé, on dit bien aurait, on dit que c'est BVA qui l'aurait réalisé. Personne ne l'a vu, je veux dire qu'il n'est jamais sorti dans la presse, il n'est jamais sorti nulle part, en tout cas, les chiffres n'ont jamais été avérés ou autres. Ça signifie qu'un bon sondage, entre guillemets le bon, bien diffusé à un moment donné, peut tuer quelqu'un quasi instantanément, tout simplement parce que, pour moi, la statistique, c'est une arme par destination. Hein, c'est comme un couteau de cuisine, c'est pas une arme en soi, mais c'est une arme par destination. À l'occasion, ça peut servir. Un sondage, c'est à peu près pareil. Mais celui-ci, je pense que c'est quand même un des plus beaux pour arriver sur la mairie de Neuilly, à virer un candidat au profit d'un autre, mais sachant que derrière, la situation a continué, puisque les coups ont continué assez violemment dans les jours qui ont suivi. Alors là, très rapidement, et puis après ça on va rentrer sur le reste, c'est ce que j'appelle les stats improbables. Alors ça, c'est pour dire qu'on peut trouver de la statistique partout et on peut se poser des tas de questions. Et je vous en cite une, c'est la corde du pendu. Alors la corde du pendu, vous vous souvenez peut-être quand Saddam Hussein a été exécuté, il était exécuté en compagnie de deux autres accusés. Et les journaux ont été assez discrets, mais il y en a un qui a terminé sa chute dans la trappe en étant décapité par la corde. Et donc, ni plus ni moins. Et en fait, en recherchant dans les vieux grimoires, on a retrouvé un garçon qui s'appelle James Barry, qui était un bourreau anglais, qui avait fait passer à la trappe quelque chose comme 500 personnes et qui avait beaucoup réfléchi à la longueur de la corde qu'il fallait pour avoir des pendaisons propres. C'est ce qu'on appelle le long drop en anglais, c'est-à-dire que c'est la corde qui doit tomber suffisamment longuement pour que la mort soit instantanée, mais pas trop longuement pour que le poids du corps n'entraîne pas la décapitation. Et il tenait un petit cahier sur lequel il notait ses chiffres. Et c'est ce que vous avez là, et on a fait la courbe en fait à laquelle on devrait se référer, d'après lui, pour décider de la longueur de la corde en fonction du poids de l'individu. La seule question qu'on a, c'est que personne ne sait comment au XVIIe siècle on faisait pour mesurer le poids exact d'un individu et la longueur exacte de la corde. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça devait être relativement approximatif, mais quelque part, c'est quand même assez impressionnant. Et quand on regarde sur la courbe celui qui avait été exécuté en même temps que Saddam Hussein, on voit manifestement que la corde était beaucoup trop longue. Donc ce qui veut dire que la statistique, ça peut servir à plein de choses. Une très récente aussi que je vous soumets là, c'est Seigneur et Sextoy. Ça a été publié dans les journaux il y a une dizaine de jours, suite à un communiqué de presse de septembre. C'est un leader de la vente d'objets érotiques en ligne qui a fait une enquête et qui dit que, manifestement, les premiers clients de la vente en ligne à ce niveau-là, ce sont les seniors. Mais quand on va un peu plus loin, on s'aperçoit que les seniors aussi, c'est les rois de la vente par correspondance. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas dans les magasins autant que les autres, donc ils ne vont pas autant dans les sex shops que les autres. Et c'est donc tout à fait normal que si on interroge que des gens qui achètent en ligne, on trouve davantage de seniors. Ça veut dire que tout simplement, quand on fait un sondage auprès d'une population qui n'est pas représentative de l'ensemble, mais seulement d'une partie d'un comportement, bah, faut s'attendre à peu près au pire. Mais par contre, reprenez les journaux de ces temps-ci, vous avez des conclusions qui sont extrêmement intéressantes en termes sociologiques. Et puis celle-ci, pour la petite histoire, donc c'était dans Économie Matin. Ce sondage qui était repris à plein d'endroits, et je trouve que c'était extrêmement intéressant comme sujet, puisque en fait, on demandait aux gens si... ils auraient envie de faire l'amour avec leur supérieur hiérarchique, et puis après ça leur demander et avec chacun des candidats à la présidentielle, donc avec Sarkozy, avec Ségolène, avec Bayrou, etc. Et donc c'est bien classé hommes et femmes, donc si vous regardez, avec Ségolène Royal, donc homme tout de suite 8%, plutôt mourir 61%, enfin c'est vachement intéressant. Bon, non, mais ça veut dire que quelque part, on se dit, il y a un outil qui est un outil qui a du sens quelque part, qui est complètement galvaudé pour à peu près n'importe quoi, et ces choses-là font énormément de mal à l'outil lui-même, parce que comment voulez-vous prendre au sérieux des choses ? Et sachez que le recensement aujourd'hui est quand même fait par sondage et non plus par recensement proprement dit. Donc si on commence par mettre un prisme tout à fait anormal, je dirais, sur un outil, il ne faut pas s'étonner derrière que les gens n'aient plus tellement confiance dans des résultats pour des choses qui ont beaucoup plus de sens. Et donc, c'était le dernier thème sur lequel, auquel je voulais arriver, parce que c'est quand même celui qui, souvent, suscite le plus de commentaires, qui sont les sondages d'opinion. Je dirais que là-dessus... J'en ai tellement fait que je ne sais jamais comment vraiment traiter le sujet, mais par contre, je sais beaucoup mieux répondre aux interrogations ou aux questions qui peuvent être à ce niveau-là. Et donc, moi, je vous suggère qu'on puisse engager la discussion sur les autres thèmes aussi, mais sur les sondages d'opinion eux-mêmes, parce que c'est là où je pense que vous avez tous soit des certitudes, soit des interrogations, mais en fait, vous y êtes tous exposés. Sachant que je vous poserai volontiers quand même une question, c'est est-ce que vous avez déjà répondu à un sondage d'opinion ? Qui a répondu ? Alors, statistiquement, c'est pas normal, hein. C'est-à-dire que la probabilité d'être interrogé en sondage d'opinion... Ah oui, interrogé quand même, ouais. Mais elle est quand même pas gigantesque, gigantesque en soi. D'abord parce que quand vous prenez par exemple pour le téléphone, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui, puisque vous avez plein de gens qui sont sur des listes rouges, vous avez des gens qui n'ont plus que des portables aussi. Donc, à partir du moment où on n'a pas d'annuaire, ça signifie qu'on est obligé, enfin pas d'annuaire, pas de liste et autres, on est obligé de faire des appels sur des numéros aléatoires. C'est-à-dire que c'est la machine qui définit les numéros, donc elle va faire ici le 0386 et puis elle va tous les faire, toute la séquence. Donc 9 fois sur 10, elle va tomber sur un truc, vous avez composé un numéro erroné, etc. Et puis à un moment donné, ça va tomber sur une ligne. Mais on est dans quelque chose qui est relativement peu fin par rapport à ce qu'il y avait il y a une cinquantaine d'années quand on travaillait sur des listes électorales ou des choses comme ça.
Oui, vous parliez d'anecdotes, j'aurais voulu simplement...
Bien sûr.
Et vis-à-vis, effectivement, de, elle était rémunérée à l'appel, et il y avait une pression quand même assez invraisemblable. Et bon, ben, fin de journée, pour avoir le quota et gagner sa vie, elle le remplissait, elle n'était pas la seule, elle y remplissait sans avoir appelé les gens, quoi. Il faisait un peu une moyenne et puis il cochait. Donc, et après, on vous bazarde des sondages et des opinions, effectivement, grand public, sachant que derrière, c'était tout et n'importe quoi. Alors, je ne sais pas si c'est une généralité, mais l'anecdote est vraie, quoi.
Alors, je dirais que c'est certainement vrai que ça existe. Très sincèrement, moi, ça m'est arrivé dans des équipes que je dirigeais d'avoir des ouaves qui m'ont fait des trucs comme ça. J'en ai peut-être... Il y a des cas où c'est peut-être passé sans qu'on s'en aperçoive. Mais je vous assure que il n'y a rien de plus difficile. Donc faire un faux questionnaire, c'est pas difficile. En faire 10 ou 20, faut s'accrocher parce que pour que ce soit vraisemblable quelque part, ça devient extrêmement compliqué. Et puis la statistique, elle a ce mérite. Moi, j'étais à la Sofres dans les années 65 et j'étais au contrôle. Dans un questionnaire, il y a des tas de questions qui sont pas vérifiables, mais il y a aussi des questions parfaitement objectives. C'est... Est-ce que vous possédez un écran LCD ? Est-ce que vous possédez un scooter ? Est-ce que vous possédez ceci et tout ? Mais on sait aussi dans la population combien on a de ces éléments. Et quand on fait l'analyse de la vraisemblance des réponses sur un ensemble de lots de questionnaires d'un individu, on voit apparaître à un moment donné que c'est pas normal, il a beaucoup trop de lecteurs de lectrices de Marie-Claire dans son échantillon, et puis il a manifestement trop peu de choses comme ça, donc on le met sous surveillance très rapidement. Et là, il suffit de regarder les questionnaires attentivement pour voir des choses quelque peu anormales. Et la règle qu'on a dans ce cas-là est généralement de redonner le paquet de questionnaires à l'individu en lui demandant de bien vouloir reprendre là-dedans ceux qui n'ont pas de sens et de redonner les autres. Le problème, c'est qu'il sait qu'on a diagnostiqué qu'il y avait quelque chose d'anormal. Le problème pour lui, c'est de sortir, alors soit de nier, mais s'il nie, dans ce cas-là, on va le virer. Et c'est donc de refaire son tri ou autre, ça devient un peu problématique, puisque vous avez toujours le risque qu'on lui dise « Ouais, mais il y a celui-là qui est faux ». Mais néanmoins, du temps où j'étais au syndicat des études, on a eu un exemple absolument fabuleux pour dire que ça existe, tout peut exister. Vous savez qu'il y a des écoutes qui sont faites quand c'est fait par téléphone, c'est-à-dire que les superviseurs peuvent écouter la conversation, ils peuvent surveiller, etc. Et c'était le directeur d'un institut de sondage très connu qui était rentré de vacances. Et sur son répondeur, il y avait tout simplement un message qui était « Bonjour monsieur, je suis machin de tel institut, est-ce que je peux vous interroger, etc. Et ben alors tout d'abord, pouvez-vous me dire si, etc. » Et il y avait un machin qui durait plusieurs minutes sur le répondeur. C'est-à-dire que le mec avait fait, pour épater la galerie, il avait posé un truc qui était complètement bidon. Je vous assure que quand vous avez une discussion syndicale et puis qu'il y en a un qui dit « Tiens, chez toi, il y a des trucs anormaux », ça remue un petit peu les foules. Bon, il peut y avoir des cas. Ouais. Moi, je pense que s'il y en avait tant, le système ne fonctionnerait plus du tout. On aurait des résultats qui seraient tellement aberrants que ça passerait plus. Mais honnêtement, hein, alors par contre, répondre à une question sans la poser, vous avez 30 questions à poser, moi je vous en pose que 25 et je réponds aux 5, etc. Derrière, vous pouvez aller faire un contrôle et dire à la personne, vous avez bien été interviewé, oui, oui, il était charmant ce garçon, ça a duré. Est-ce qu'il vous a posé tel... Oui, oui, je me souviens. Ah, cela, je ne me souviens plus, mais... Et puis là, vous ne pouvez rien prouver.
Élargir un petit peu et dire à travers ces sondages et ce matraquage, bon, vous citiez la télé et tout, moi j'ai pas la télé, je regarde pas la télé, mais ça fait les journaux en sont quand même bien fournis, la radio en permanence, on a l'impression de passer à travers, mais je pense qu'à l'heure actuelle la démocratie est vraiment en danger à travers la réappropriation du pouvoir qui est en place, ces orientations, on l'a bien vu avec Neuilly, hein, où Martinon a été fracassé, et si on remonte un petit peu l'étude, on s'aperçoit que c'était quelque chose qui était fallacieux, quoi. Et quand on se rappelle, et vous l'avez pas cité, mais on pourrait le remettre par rapport à Maastricht, et apparemment tout le monde était d'accord, et puis sorti des urnes, il se trouve que ça a été balayé, et donc il y avait une manipulation complètement invraisemblable, et qui était effectivement du pouvoir en place, quoi. Et alors je sais pas, alors quand on parle de pouvoir, après on parle de placer les gens, vous parliez d'institut, la Sofres, y a toujours, on peut toujours mettre en avant aussi des sources, des commissions de contrôle, des commissions d'intégrité, des commissions... moi je dois dire dans quelle suspicion, et quand vous parliez tout à l'heure du grand complot, vous l'avez annoncé à plusieurs reprises, le grand complot, je crois que derrière effectivement on peut parler d'une grande machinerie de comploterie et de manipulation permanente, quoi. Et donc je tiens jamais compte de ce type de sondage, quoi. Moi je suis vraiment très c'est urticant pour moi.
Alors, pour la petite histoire, ce qui est amusant, c'est que nos gouvernants, mais pas seulement ceux-là, même déjà avant, sont des consommateurs absolument fabuleux de sondages. On sait que Sarkozy fonctionne largement là-dessus, et pour trouver des nouvelles idées de mesures et autres en fonction de sondages d'opinion. On sait qu'il y en a eu des quantités dans l'équipe de Ségolène à l'époque. On sait qu'il y en a toujours eu. Et donc, quelque part, moi, je suis toujours un peu étonné de se dire, c'est des gens qui bidouillent quand ça les arrange et qui, en même temps, utilisent leur corps pour leur propre intérêt des résultats de sondage avec quasiment le même outil. Je pense que ça ne doit pas être aussi caricatural dans le système. Et le cas de Maastricht, je ne suis pas sûr que ce soit une manipulation. Qu'il y ait une différence entre les deux, c'est vrai, mais comment se fait-il qu'on soit obligé de redresser, en politique, hein, qu'on soit obligé de redresser des résultats pour... enfin, on était obligé de redresser des résultats pour mesurer le score probable de Le Pen, par exemple. Ça veut bien dire que les gens n'annonçaient pas clairement la couleur de ce qu'ils allaient faire. On était obligé de trouver des combines absolument dingues pour arriver à faire l'estimation. Donc pour Maastricht, on peut penser aussi à la même chose, hein, que les gens n'ont pas dit ce qu'ils allaient faire, et qu'ils ont raconté au rouge.
Oui, il y a une question.
Je veux bien croire, hein, qu'il y ait des erreurs, je veux bien croire toutes les erreurs. Bon, c'est pas de la manipulation, c'est une erreur, mais le problème, elles vont toujours dans le même sens, ces erreurs.
Alors, je vais vous donner une vraie manipulation, parce que celle-là, elle est connue. Enfin, elle est connue. Elle date d'un ministre qui s'appelait Stoléru. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Et qui avait demandé un sondage sur les immigrés. Et c'était sur les mesures d'aide au retour à l'époque. Et ça s'était traduit par un article dans le Canard enchaîné qui était extrêmement violent. C'est tout simplement que, mais là c'est vraiment un mauvais boulot qui avait été fait. Celui qui avait fait le sondage s'était aperçu que les résultats étaient absolument déplorables. Et en regardant le truc, c'était dit, non mais on a travaillé comme des cochons, le questionnaire était mauvais, les vrais résultats sont certainement pas ça. Il avait certainement raison. Mais là où il a eu absolument tort, c'est qu'il a décidé de lui-même de modifier les résultats, mais dans un sens favorable, sans doute sans que le ministre lui ait rien demandé et n'était pas au courant. On peut faire des trucs comme ça, mais dans ces cas-là, il ne faut pas foutre les listings à la poubelle au risque de les voir dans le Canard enchaîné 3 jours après. Et ça a valu quand même quelque chose de fabuleux. C'est que, un, ce sondage n'a jamais été payé par le ministère qui l'avait commandé. Donc c'est déjà un premier truc. Et deuxièmement, cet institut, qui à l'époque était l'IFOP, s'est retrouvé éjecté de tous les organismes professionnels parce qu'on a considéré qu'il avait gravement fauté et a même été poursuivi par ses concurrents pour la mauvaise image qu'il faisait à l'ensemble de la profession. Mais là, on avait vraiment une altération des résultats qui était volontaire, quel que soit le bon motif, hein. Alors dire que ça va toujours dans le même sens, moi je dirais que ceux qui sont publiés peut-être, c'est comme un iceberg. Hein. Il y en a, le nombre de sondages d'opinion qui ne sont pas publiés est gigantesque par rapport à ceux que vous voyez. Et donc on peut toujours laisser passer les résultats qui nous intéressent et ne pas laisser passer les autres. Ça ne signifie pas pour autant que les différents sondages sont mauvais. Mais là, oui.
Attends. Pardon, allez-y, allez-y. Oui, je voulais citer une façon d'être sondé. Je l'ai été au total 3 fois, 2 fois sur trottoir. Une fois, une dame frappe chez moi, me présente une carte avec bleu, blanc, rouge dans le coin et tout. Vous pouvez me recevoir, monsieur. J'ai un sondage à faire. Oui. Alors, elle a commencé à me parler de choses diverses qui touchaient la vie courante. Après ça, elle a dévié. Je peux vous faire. J'ai aussi un questionnaire sur l'automobile, les comportements d'automobilistes. Après, elle en est arrivée à des choses politiques. Alors, j'ai commencé à me méfier très sérieusement. Pour moi, cette dame ne faisait pas un sondage, mais était venue me sonder pour, par exemple, je vais dire tout simplement, la municipalité, pour voir ce que je pensais sur un certain nombre de choses. Hein, on était venu voir mon opinion. Hein, j'étais le directeur d'une maison de jeunes du Patelin, bon, aussi. Et je n'étais pas forcément tout à fait en accord avec la municipalité. Et voilà, des fois, du faux sondage où on vient chez vous, on vous interroge, on croit répondre à un sondage, et puis en vérité, c'est vous que l'on vient essayer de voir de près, quoi.
Alors vous pouvez avoir raison, vous pouvez ne pas avoir raison, parce que la technique que vous évoquez ici, c'est celle qu'on appelle les enquêtes omnibus. En fait, c'est des enquêtes de mutualisation dans lesquelles on met différents sujets. Ça veut dire qu'on monte avec un sujet à un moment donné, puis on peut en descendre à un autre, tout simplement parce qu'on va partager les frais qu'on appelle de terrain, c'est-à-dire les frais d'enquêteur, sur quelque chose de significatif. Si vous avez 2 questions à poser, ça coûterait beaucoup trop cher de monter une opération. Et donc, on va parler aussi bien d'automobile que d'opinion, que de différentes choses. C'est un truc qui est fait de bric et de broc. Alors, est-ce que c'est une bonne technique? Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est en train de vouloir vous sonder, vous. Ça pourrait très bien être. Hein. Moi, je ne peux pas dire en l'occurrence, mais tout peut arriver à ce niveau-là. Mais ça coûte très cher, hein, je trouve, d'aller faire un sondage pour avoir l'opinion de quelqu'un. Ça me paraît compliqué comme détour, mais...
Ouais. C'est pas facile.
Oui, alors la personne s'était présentée en disant, ben voyons votre âge, enfin, vous tombez dans telle catégorie que je dois enquêter, etc., au départ. Hein. Mais là, de mon souvenir maintenant, ça date de pas mal d'années, sur les questions, elle est arrivée à la fin, la façon de les poser telle que c'était pointé, Et je dis, pour moi, ça ne colle plus avec les premières questions qui tombaient bien dans des sondages, pour moi, oui. Mais là, pour moi, j'étais plus dans des sondages.
Oui, j'aurais voulu simplement aborder l'aspect juridique lorsqu'une un organisme ou bon une organisation politique ou une entreprise donc commande un sondage sortie de ce sondage les propriétaires de ce sondage.
Oui.
Comment et donc à la divulgation de ce sondage elle en fait elle peut pas ça peut pas être mis sur la place publique. Genre le canard enchaîné sort quelque chose qui n'a pas été mis sur la place publique mais s'en empare, là il peut se voir.
C'est une autre question. Si je fais un sondage, il m'appartient. Donc j'en fais ce que je veux, je le diffuse ou je le diffuse pas. Moi dans quoi ? Il y a quand même quelques règles dans le contrat qui vous interdisent de l'utiliser en modifiant les chiffres. Ou éventuellement, on vous interdit de diffuser certains résultats qui seraient une présentation partielle de l'ensemble. Mais vous n'avez aucune obligation de diffuser les résultats. Aucune. Ce qui veut dire que s'il passe dans le canard enchaîné, ça veut dire qu'il y a une fuite quelque part. Et la fuite, vraisemblablement, elle vient de chez vous. Il ne faut pas croire qu'elle vienne de l'Institut de sondage. 9 fois sur 10, vous avez des gens bien intentionnés qui vont faire sortir le truc s'ils y ont intérêt. Dans ce cas-là, on rentre dans les délits de presse ou pas dans les délits de presse. Mais juridiquement, il n'y a aucune obligation, il vous appartient. Par contre, si vous faites un sondage collectif, c'est-à-dire vous êtes 5 ou 6 à lancer un sondage, les résultats, ils vous appartiennent à tous. S'il y en a qui veut les diffuser, ça, c'est son problème.
On fait une espèce de péréquation par rapport à 600 personnes et on étend ça à la population entière d'un pays. Mmh. Et je trouve ça pas représentatif du tout, en fait, de l'opinion générale des 60 millions de personnes par rapport aux 600 ou 900 personnes interrogées.
Alors, je vais vous dire... en gros, aujourd'hui... On admet communément qu'un chiffre de 1000 personnes, c'est suffisant et ça correspond bien à ce dont on a besoin pour faire ce type de travail. Que ce soit au niveau de la France, que ce soit au niveau d'un département, que ce soit au niveau d'une commune ou d'un village. Si vous êtes maire d'un village de 500 habitants, c'est pas en interrogeant 250 que vous allez avoir un bon résultat. Et pourtant, vous en avez interrogé la moitié. Là, c'est les statistiques qui, c'est la théorie de la statistique qui ou la théorie des sondages qui le prouve. Personnellement, ça m'a toujours choqué aussi. Mais on a le droit d'être choqué par quelque chose parce que on se dit que c'est quand même pas possible que ça fonctionne comme ça, même si vous avez la démonstration. Hein. Je veux dire qu'on a le droit que la réalité s'oppose à la crédulité et autres. Ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, la précision du résultat, elle n'est pas liée au taux de sondage. Ce que j'appelle le taux de sondage, c'est 1000 par rapport à 60 millions. Enfin, c'est pas 60 millions, en fait, parce que c'est les gens de plus de 15 ans, etc., mais peu importe. C'est lié à l'effectif que l'on interroge. C'est systématiquement simple, tout simplement parce que ce qu'on appelle la fourchette, un intervalle de sondage, il est égal... Enfin, on calcule en fait ceci en fonction d'un rapport qui est le résultat qu'on obtient, par exemple 40%, multiplié par son complément, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas répondu ça, 60%, et qu'on divise par le nombre de personnes interrogées et dont on sort la racine carrée, qu'on va multiplier par 2 pour avoir 95% de chances que l'on soit dans la fourchette. Donc, il n'y a rien à faire, on sait qu'avec 1000 personnes interrogées, on a tel niveau de précision. Le problème qu'il y a, c'est que j'interroge 1000 personnes Et je dis, est-ce que vous possédez une voiture? Vous avez 60% qui disent oui. Je continue de leur poser des questions à cela. Votre voiture, vous l'avez achetée neuve ou d'occasion? Si vous l'avez achetée neuve, vous l'avez achetée à un concessionnaire, etc. Là, vous n'êtes plus à 1000 personnes interrogées. Vous êtes passé de 1000 à 600, puis à 100, puis à 10. Et éventuellement, là, votre précision, elle est représentative de rien du tout. Elle est purement anecdotique. Par contre, quand vous posez la question, est-ce que vous avez pris des vacances cette année ? Vous le posez à 1000 personnes qui ont été convenablement sélectionnées, votre résultat est tout à fait pertinent, même s'il est choquant comme ça, parce qu'on se dit c'est pas possible. Mais là, on peut pas. Je veux dire que c'est pas l'existence de Dieu, j'y crois pas. Là, c'est vraiment le. Ça se démontre, mais c'est pas pour autant que c'est satisfaisant pour l'esprit.
Il y a quelque chose de. Assez courant, là, c'est sur les manifestations. Alors, il y a les chiffres de la police.
Oui.
Et les chiffres des syndicats. Alors, bon, c'est quand même, il y a quand même des syndicats qui ont les moyens, et la police a les moyens aussi. Donc, comment se fait-il qu'ils soient jamais d'accord sur leurs calculs? Et quelquefois, il y a une sacrée différence. Ça va du simple au triple, quoi. C'est.
Ben, quand il n'y a pas de différence, c'est généralement qu'il n'y a pas grand monde, hein. Non, mais c'est vrai que c'est un truc. Il y a un numéro de pénombre que vous pouvez trouver sur le site, c'est www.pénombre.org, hein, où il y a toutes sortes d'articles. Et on avait fait un travail à ce niveau-là. C'est extraordinairement compliqué de quadriller une surface, parce que ça équivaut à quoi? Ça veut dire qu'on décompose une zone avec des petits carrés, hein, et dans lesquels on compte le nombre de personnes pour avoir une densité qu'on multiplie par le nombre de mètres, la vitesse du cortège, etc. Alors derrière, c'est sûr que la police a toujours compté vers le bas et les syndicats vers le haut. Le problème est juste différent, c'est quand il y a une manifestation de policiers, où généralement on s'aperçoit que ça ne colle plus dans le même sens. Mais bon, ça fait partie quand même, honnêtement, c'est extraordinairement difficile de mesurer une foule. Bon, alors, il y a des trucs. On sait, par exemple, que quand les Champs-Élysées sont pleins à ras-bord, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit en mai 68, au retour du général de Gaulle et autres, on sait que les Champs-Élysées, ça absorbe. Quand c'est bien tassé, je ne sais plus combien, si c'est 600 000, 800 000, 1 million de personnes. Enfin, le chiffre, il est connu, là. Mais sinon, c'est quasiment impossible, je crois, d'être... c'est vraiment du doigt mouillé, quoi. Et surtout quand ça va de la Bastille à la République, parce que vous en avez qui vont démarrer à un moment donné, qui vont s'en aller, qui vont aller boire un coup, il y en a d'autres qui vont arriver.
Oui, mais c'est quand même le fait que ce soit annoncé toujours de cette façon-là par la police, ça veut bien dire que c'est manipulé. C'est une manipulation de l'opinion, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein, bon,
non, manipulation, pas nécessairement. Je pense que la police a une technique de mesure qui est constante. C'est-à-dire qu'elle les mesure toutes de la même façon. Les syndicats en ont une autre. Bon, c'est pas la même technique. Je pense qu'ils ne se sont jamais mis autour d'une table pour décider d'une technique commune.
Hein. Ce qui est... Attends,
pardon. Ben elle est grosse, là. Hein. Ouais.
Moi, je voudrais poser une autre question. Bon, les sondages d'opinion, est-ce que c'est l'opinion qui fait le sondage? Enfin, par rapport à un vote, est-ce que les résultats, dans la façon dont les résultats sont communiqués, publiés, peuvent avoir... une importance énorme sur le vote? Je pense au sondage de Bayrou, où il était placé peut-être en deuxième position.
Ça fait partie des questions non résolues. Je dirais que la première fois qu'on s'est vraiment posé la question, c'était lorsqu'il y a eu une enquête qui a donné naissance à un rapport qui s'appelait le rapport Simon. C'est le premier rapport en France sur le comportement sexuel des Français. Ça date de 68 ou 69. Et à l'époque, je me souviens que dans les discussions de spécialistes, hein, des sondages et autres, c'était de dire, est-ce qu'on n'est pas en train là, de créer ce qu'on appelle un biais? Un biais, ça veut dire une erreur systématique. Tout simplement parce que quand les gens vont voir que le comportement moyen est de tel type, Est-ce que quelque part, ça ne va pas les conduire à adopter ce comportement? Et puis, on s'est aperçu, au moins sur ce terrain-là, que ce n'était pas le cas. Parce que les enquêtes successives ont montré que la diversité des comportements était restée. Alors, en politique, est-ce que c'est différent? Moi, je ne sais pas dire. Mais on peut supposer. Hein. De toute façon, il y a nécessairement quelque chose. Il est certain qu'aux États-Unis, la dernière élection présidentielle, c'est quand même bien nourri d'un certain nombre de choses. Il est bien certain que la montée de Ségolène Royal aux dernières présidentielles en France est partie quand même à l'origine d'un phénomène sondagier qui a été repris par les médias. Donc il y a bien des éléments qui se produisent, mais est-ce que c'est véritablement un effet direct ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, je ne sais pas mesurer ça.
Moi, je voulais vous demander également, quand on décide de faire un sondage d'opinion, est-ce que l'institut de sondage est maître entièrement de ces questions ou est-ce que c'est la personne qui a commandé le sondage qui influe les questions? Parce qu'on peut répondre une question tellement différemment si elle est posée de telle façon ou de telle autre façon qu'on peut aussi faire un biais dans le sondage.
Non, la réponse serait les deux, mon colonel. C'est vrai qu'on revient toujours à la façon de poser les questions. C'est vrai qu'il peut y avoir, mais même sans malice, hein, je vous donne un exemple qu'on citait déjà en 65 à la Sofresse. Si je pose la question, l'avantage avec les sirops de fruits concentrés en bouteille, c'est qu'on peut les doser exactement selon son goût, je vais avoir 70% de réponses positives. Si je dis l'inconvénient avec les sirops de fruits en bouteille, c'est qu'on ne peut jamais les avoir selon son goût, on va encore avoir un taux qui va être supérieur à 50%. Donc, ce n'est pas que la question est mauvaise en elle-même, c'est que c'est une question qui est un petit peu ambiguë, quelque part. Orienter, on n'a rien voulu prouver en disant ça. Hein. Je veux dire, orienter, ce n'est pas une volonté a priori, là. Hein. C'est une mauvaise question. Mais quand on est institut de sondage et qu'on a un client, alors vous avez des clients qui arrivent en disant « voilà la question que je veux ». Et de temps en temps, vous avez l'institut de sondage qui dit « celle-là, je ne vous la passe pas ». Parce que y a quand même des choses qui sont un peu embêtantes. C'est quand vous avez la publication, enfin, quand vous avez une publication qui est faite derrière, vous avez quand même vos petits camarades qui regardent aussi vos questions et ainsi de suite. Et c'est quand même un peu ennuyeux d'avoir des questions mal foutues parce que c'est un bon argument de vente en clientèle quand vous êtes dans un institut concurrent pour expliquer que le petit camarade ne bosse pas comme vous ou du moins que vous ne bossez pas comme vos petits camarades. En général, c'est une coproduction, mais c'est vrai que c'est souvent l'institut qui rédige la question en fonction de ce qu'on lui a demandé. Et là, bon, on a des gens qui, avec le temps, je crois, sont devenus un petit peu insensibles, non pas aux pressions, mais ils ont un boulot à faire. Le problème, c'est que c'est comme tout, hein. C'est comme votre plombier et autres. En une heure, on fait tant de choses, il y a des objectifs à atteindre et on essaye quand même en général de faire son truc à peu près aussi bien. Moi, non, quoi, on n'a pas la vérité. Vous prenez par exemple sur les hommes politiques, sur le score des hommes politiques, vous avez tous les mois deux sondages qui tombent à peu près en même temps, une journée près. Et qui ne donnent pas tout à fait les mêmes résultats. Mais quand vous regardez bien, ce n'est pas rigoureusement la même question. Il y en a une, c'est celui auquel vous faites confiance, et puis l'autre, c'est celui auquel vous accordez je ne sais quoi, mais ce n'est pas la même question. Donc on n'a pas nécessairement la même réponse. Les deux questions sont bonnes, hein. Aucune n'est parfaite. En tout cas, elles veulent dire chacun, elles sont proches, mais elles ne sont pas identiques. Mais bon, rien n'empêche, qu'est-ce qui se passerait si demain j'étais chargé d'études et qu'on me dise, tu poses cette question, je dis non. Et on me dit, on te paye quatre fois le prix, etc. Mais enfin, ça se saurait hein, si c'était souvent, malheureusement, ce serait riche.
Mais il existe aussi des biais quand c'est un sondage par téléphone, c'est un numéro, vous dites aléatoire. Mais il y a aussi des sondages dans la rue avec un contact direct avec la personne. Moi, je trouve que c'est un peu faussé. Enfin, généralement, ce sont des sondages qui n'ont pas tellement d'importance. Mais parce que un jour, je me suis amusée à observer les gens qui qui font le sondage, généralement, ce sont des gens jeunes et tout, et ils vont vers le même type de personnes. Ils ne vont pas aller vers quelqu'un qui leur paraît un peu rébarbatif et qui va dire « Non, non, moi, je ne veux pas. » Donc, en fait, ils sondent quand même le même genre de personnes.
Non, mais ça, je vais vous répondre simplement. Ça, c'est nul au même titre que le truc où on dit...
C'est un sondage.
Tous les jours, vous avez dans Métro, là, le journal gratuit, vous avez le sondage du jour. Donc, c'est les internautes qui se branchent sur le truc et qui répondent. Ça a une valeur scientifique qui est absolument nulle. Donc, ah oui, mais c'est nul. C'est nul. C'est pas un sondage, d'ailleurs. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Si, on peut dire que le résultat, s'il y a 42% à une réponse, il y a 42% des gens qui ont été interrogés qui ont répondu ça. C'est tout ce que ça veut dire. Rien de plus. Mais ça, on ne peut pas les interdire. Hein. Si, on pourrait interdire de faire des sondages dans la rue, mais... Ce qui poserait quelques problèmes, hein. Comment faire des sondages, par exemple, ce que fait souvent la ville de Paris auprès des automobilistes ou de la RATP, par exemple, sur les trajets qui ont été effectués le jour même. Où est-ce que vous êtes monté? Où est-ce que vous avez changé? Où est-ce que vous allez? C'est dans la rue.
Mais on peut pas... moi, par exemple, quand je suis sondé... Ça m'est arrivé. Je réponds toujours à côté, et surtout pas ce que je pense, quoi. Et donc, ça joue sur cette croyance qui serait que le citoyen, il répond forcément aux questions. Et par exemple, j'ai été sondé à Nevers à l'époque. Il y avait Bérégovoy qui avait fait un sondage pour les élections. Vous pensez bien que j'allais pas du tout répondre aux questions. Mais ça pourrait être aussi quelque chose de révolutionnaire, ne pas répondre au sondage, de manière à ce que ne pas répondre, c'est-à-dire répondre différemment, de manière à bien montrer qu'on n'a pas du tout l'intention de s'exprimer avant par rapport à une élection, par exemple, où on n'a pas l'intention de se faire avoir, quoi.
Oui, non, mais si tout le monde faisait comme vous, ce serait beaucoup plus simple, parce que ce serait facile de retrouver les bons résultats. Non, mais des farceurs, il y en a. Mais heureusement, on a une imprécision. Bon, ça rentre là-dedans. Si le phénomène prend de l'ampleur, là, je sais pas comment on fera.
Ben, c'est la fin des instituts de sondage.
Oui.
C'est la liberté retrouvée.
Oui, ça pourrait.
La liberté d'opinion, quoi. Parce que c'est, en fait, sondage d'opinion.
C'est sondage d'opinion. Ouais. Hein, parce que les sondages d'opinion, ça, je ne l'ai pas dit, mais... dans le total des sondages, c'est gros comme ça, hein, c'est 5%. En chiffre d'affaires, c'est presque rien par rapport à tout ce qui va traiter de l'automobile, des yaourts, des médicaments et tout. C'est rien, ce truc-là. Alors, sondage d'opinion, c'est pas que les sondages politiques, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y a quand même d'autres questions. Ouais. L'enquête sur le comportement sexuel des Français, c'est du sondage d'opinion. Hein.
Bon, c'est politique aussi.
Pardon ? C'est politique.
On va peut-être s'arrêter là ou ouais. C'est à moi. Ah, il y a quand même.
Mais c'est pas sur les sondages que je voulais ramener la conversation. C'était surtout sur tout ce qui est dans le domaine de la santé, les chiffrages de cas de décès, par exemple, par rapport à une vaccination. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut ajouter, est-ce qu'on peut croire ce genre de choses?
Alors, je veux dire, là, quand je parlais tout à l'heure de théorie du complot, il y avait des guillemets, hein, je pense à X-Files,
oui,
et compagnie.
Oui, tout à fait, mais il faut penser aux laboratoires pharmaceutiques qui sont derrière.
Oui, il y a des choses qui sont parfois extrêmement, extrêmement troublantes. En même temps, vous apercevez que... Le déficit d'information est absolument considérable dans tous ces domaines-là, même si ça évolue. Donnez un exemple. Hein, il y a une vingtaine d'années, je me suis trouvé à faire une étude sur une technique chirurgicale et j'avais besoin d'avoir des statistiques sur le nombre d'opérations de chaque type faites en France, etc. Ce qui est fabuleux, c'est que vous pouviez aller, même avoir des bons copains à la Caisse centrale de sécurité sociale, il n'y avait que dalle. Ils vous sortaient toutes les stats que vous vouliez avec les cas. On vous disait en cas 50, cas comme la lettre, hein, cas 50, il y en a eu tant de milliers ou tant de centaines de milliers. Ils disaient cas 50, c'est quoi? Cas 50, c'est l'appendicite, c'est les hernies, les cataractes, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne servait à rien. Et extrêmement difficile d'avoir ce type d'informations. Alors, quand vous parlez d'accidents et autres, on est généralement sur des cas relativement isolés. Hein, c'est rare qu'on ait des phénomènes massifs. Donc, les cas relativement isolés, est-ce qu'on est sûr qu'ils aient été correctement saisis? Prenez les maladies à déclaration obligatoire, on n'est pas certain qu'elles soient toutes déclarées, et ainsi de suite. Bon, là-dessus... Ces chiffres-là, d'ailleurs, ils ne sont, pas publics, hein, en général. On voit des traces de temps en temps, mais si vous prenez sur les problèmes d'accident de vaccination, la seule réponse que l'on peut dire, c'est qu'apparemment, c'est relativement faible. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Hein. Et puis, de temps en temps, on voit sortir des trucs qui disent bah, y a peut-être quand même quelque chose d'un peu plus important. On a bien interrompu certaines vaccinations qui semblaient... mais je crois que c'est vraiment des sujets là qui sont... Je ne suis pas sûr que ce soit du complot seulement, hein, il peut y en avoir, mais je crois qu'on est vraiment sur des domaines qui sont pratiquement tellement ténus. Tous les petits phénomènes.
Hein. Ce genre de sondage, c'est souvent extrêmement ponctuel. Alors, on vous fait un sondage sur les vaccinations, par exemple, et on vous dit, bon, on ne vaccine plus pour l'hépatite, par exemple. Mmh. Et puis, un mois après... on va vous refaire un sondage, il y a plein d'hépatites et on revaccine. Enfin, c'est des choses souvent très ponctuelles. Les sondages, les résultats de sondages donnent des informations qui sont traitées souvent très ponctuellement.
Enfin, en principe, alors, c'est pas avec du sondage qu'on fait l'interruption de vaccination.
Non, pas. Mais par contre, c'est pas à partir de sondages, mais c'est quand même à partir de chiffres, de statistiques qui sont peut-être pas si fiables que ça. Parce que d'après ce que vous dites, il y a peu de statistiques très très fiables. Hein.
Alors, il y en a qui sont très fiables. Les décès sont très fiables, à mon avis. Sauf dans le 13e arrondissement, où on a quand même un nombre de Chinois morts qui est insuffisant. Mais, hein. Non, mais sur le, juste pour sortir de la plaisanterie, quand vous prenez, par exemple, l'interdiction de l'acomplia de Sanofi Aventis, ce médicament miracle qu'il devait faire, etc., on les a quand même bien diagnostiqués, ces bugs qu'il y a pu y avoir, et c'est pour ça que le truc a été bloqué aux États-Unis, en Allemagne, en France. Donc il y a quand même des chiffres qui sont suffisamment interpellants pour créer des mouvements.
Oui. Voilà, moi je voulais parler aussi d'un autre problème avec les statistiques qui sont données, par exemple dans les hôpitaux. Il a été la mode de classer les hôpitaux suivant leurs résultats d'infection nosocomiale et tout. Or, on a comparé des choses qui n'étaient absolument pas comparables. Les journaux s'en sont emparés, traités par des gens qui n'étaient pas au courant exactement de ce qui s'est passé, et les chiffres ont été divulgués, ce qui a créé des aberrations énormes. Parce qu'on regardait les infections nosocomiales d'un hôpital qui faisait, par exemple, que des opérations de la thyroïde où c'est très très rare d'avoir des infections, on le mettait en comparaison avec un hôpital qui ramassait tous les moribonds de la vie, de la rue. Et on disait, celui-ci, il est mauvais parce qu'il a 30% d'infections nosocomiales. Et ça, ça a été très grave pendant très longtemps.
Non, mais c'est vrai que le palmarès des hôpitaux, hein, maintenant qui ressort, qui vient de sortir encore il n'y a pas très longtemps...
Ça s'est un petit peu affiné, mais
c'est... Il n'y a pas que le nosocomial dedans, il y a plein d'autres choses.
Non, il y a plein d'autres choses, mais...
Le problème, c'est quand vous voyez dans les cliniques sur une spécialité que celui qui sort en tête a un taux d'infection nosocomiale qui est quand même vachement élevé, Parce qu'il y a un ensemble de critères qui sont, voilà, qui mais sont là.
Généralement, ce n'est pas expliqué, donc les gens ils vont...
Mais c'est un thermomètre de journaliste en même temps.
Voilà, hein, et donc, c'est exactement ça. Et ça, ce n'est pas contesté par le ministère de la Santé.
C'est... Il n'est peut-être pas complètement juste, mais il n'est peut-être pas complètement faux. Hein. Par exemple, la dernière des 300e, la 300e clinique du classement de l'an dernier... elle est chez moi, hein. Elle est à Cône-sur-Loire. Et...
Oh, je suis de Cône aussi.
Non, mais ça n'étonne quand même trop personne. Hein, oui, donc, il y a quand même des choses qui ne sont, oui. sont pas normales dans le système. Quoi. Mais oui, mais c'est pas du béton. Hein.
Non, pas du tout. Et ça, vraiment, ça a fait vendre des journaux.
C'était... Ça s'appelle des marronniers dans le langage de la presse. Hein. Ça revient tous les ans. Ah, voilà. C'est comme l'immobilier, le salaire des cadres... et différentes choses comme ça.
Ce qu'il y a. On va changer de sujet. Je pense notamment aux compagnies d'assurance qui prennent en compte, évidemment, tous les accidents de la route. Et j'avais entendu parler un spécialiste qui évoquait l'existence de... statistiques, c'était peut-être pas des statistiques d'ailleurs, c'était peut-être même des décomptes exacts d'accidents par type de voiture.
Oui.
Alors, ce genre de décompte, vous en avez entendu parler ou Monsieur? Est-ce que c'est quelque chose qui est caché parce que personne évidemment ne veut.
Non, c'est pas caché. Vous savez, sur le domaine automobile, c'est sans doute le domaine qui est le mieux connu en France parce que c'est un domaine qui est mutualisé. Donne un exemple, le fichier des cartes grises. Vous avez une carte grise, il y a un fichier des cartes grises. Ce fichier est en fait géré par la Chambre nationale des constructeurs automobiles. Alors il est géré par les préfectures et tout, mais le statistiquement et tout, c'est eux qui l'ont. Ça veut dire que les statistiques sur les immatriculations, ils les ont tous. C'est-à-dire que Peugeot, ceux de Renault, etc., ils ont la copie des cartes grises en fait. Donc il n'y a absolument aucun problème sur une période donnée pour savoir ce qui se passe. Pour les accidents, les compagnies d'assurance ont bien compris que c'était bien plus intelligent pour elles de mettre en commun toutes leurs ressources pour derrière avoir des politiques tarifaires qui soient intelligentes, et ainsi de suite. Donc ils ont la même information. Mais vous prenez par exemple, prenez le gaz en bouteille, hein, le butagaz, antargaz, etc., ils ont tous les ventes au niveau de chacun des départements, par type de modèle, etc., d'eux-mêmes et du concurrent. Ils ont la totalité. Et donc chacun peut suivre au jour le jour la totalité de ses courbes. Donc ça, c'est des domaines où l'information est bonne, parce qu'en fait, c'est une information de professionnels qui se la mutualisent. Alors vous allez me dire, il pourrait y en avoir qui bidouillent, etc. Mais non, parce que... c'est pas facile de, sur des marchés comme ça, d'arriver à tromper son monde. Hein.
Mais ma question avait surtout pour but d'identifier un nombre, ou plutôt un facteur, qui serait affecté à un modèle de voiture. Par exemple, on pourrait constater que la 307 est une voiture qui a beaucoup d'accidents en percussion par l'avant. Parce que, par exemple, il y a un angle mort quelque part, ou parce que, vous voyez, c'est des statistiques qui pourraient peut-être ressortir des assurances, des compagnies d'assurance, par exemple.
Enfin, après ça, il y a les interprétations qu'on peut avoir. Hein.
Ah oui, bien sûr.
Mais vous l'avez sur les pannes, par exemple, sur les pannes de voitures, on sait très bien, il y a des tas d'indicateurs qui donnent le nombre de pannes modèle par modèle. Alors... je crois que c'est fait sur les autoroutes et non pas sur l'ensemble des garages, etc. Mais on a une indication qui est quand même très, très précise. Alors après ça, pourquoi ça tombe en panne? On peut se poser des questions. Hein, mais là, on a de l'information. Il y a des sujets où on n'a rien.
Bon, on va peut-être... à moins qu'il y ait vraiment une envie de... voilà, c'est... merci Daniel. Alors,
juste un instant, hein. Ce que je vous propose là, c'est de, je vais sortir tout de suite, c'est de prendre les lettres 47, 48 et 49 pour avoir un petit peu un vécu de ce que l'on fait, et vous trouverez un petit peu la variété de sujets et des compléments à ce qu'on a dit ce soir. Hein.